Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 168e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 31 octobre, c'est Halloween. Et aura-t-on des comics d'horreur à lire cette semaine? Et par horreur, j'entends bien pourri. Réponse dans les prochaines minutes. Nous aurons du Marvel avec la fin de Battle of the Atom, la suite d'Infinity, la fin du mini crossover entre Spider-Man, Hulk et les X-Men, mais aussi le début de Cataclysme, véritablement une semaine à event, une petite partie indé avec quelques nouveautés, et enfin DC avec le début de la mini-série sur Damian, le début de Forever Evil Argus et les annuals sortis cette semaine, dont la conclusion de Lights Out. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour vous parler de tous ces nouveaux comics, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Valentin.
Hello les gens.
Et pour son premier podcast, quelqu'un que vous avez déjà pu lire sur le site, c'est Marty.
Bonsoir.
Eh bien, ravi de t'avoir parmi nous, Marty, premièrement.
Ouais, bienvenue.
Je confirme.
Tout le plaisir est pour moi.
Et malheureusement pour toi, gros bisutage, puisque premier podcast le jour d'Halloween, ça va faire mal.
Ah, j'ai le droit à goûter aux bonbons, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et par bonbons, vous savez très bien ce qu'on entend.
Non, mais je suis sûr que ce podcast va très bien se passer, ça va aller comme papa non maman.
C'est ça, exactement.
Exactement.
Et puisque d'ailleurs, nous allons commencer avec quelque chose où on a mis papa dans maman et on a fait des bébés absolument difformes, ça s'appelle X-Men Battle of the Atom numéro 2, Bruno.
Oui, oui, alors c'est la fin de Battle of the Atom, de ce fameux crossover X-Men. Alors sur la couverture, déjà, vous trompez pas, c'est marqué écrit par Bendis, dessiné par Frank Cho, c'est pas du tout ça en fait, hein. À l'intérieur, c'est écrit par Jason Aaron pour la plus grande partie du comics, on a quelques épilogues qui sont écrits par Brian Wood et Brian Michael Bendis, mais sinon c'est Jason Aaron. Et au niveau des dessins, on a du Ezad Ribic, on a du Giuseppe Camuncoli, du Christopher Anka, du Chris Bacalo, un petit peu de Stuart Immonen, enfin voilà, c'est un gros mix, un petit peu de tous les...
Hein? Pas du tout.
Il n'y a pas du tout de Frank Cho, par contre.
Ouais. Donc, j'ai envie de dire, ça montre déjà le soin apporté, à cet event, si l'épilogue est déjà foireux sur la cover.
Ouais, et la cover, ça
en même temps, pour vite fait m'excuser de ma voix qui part complètement en sucette ce soir. Voilà.
Alors. Donc après, graphiquement, moi, j'aime beaucoup Ezad Ribic et, du coup, la partie qu'il a dessinée, je la trouve plutôt classe. Même si, on en parlait hors antenne, c'est vrai que les personnages ont toujours cette tendance à avoir la bouche ouverte. Voilà, ce qui est parfois un
petit
peu bizarre.
On ne dira pas pourquoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Bah pour les sucettes.
Et,
oui.
Mais sinon, côté action, du coup, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. On avait quitté cette petite troupe, justement, à Cap Citadel, cette fameuse base qui a une histoire un peu importante pour les X-Men.
Où ils étaient attaqués. Juste un peu.
Un petit peu. Ils étaient attaqués par les carrières du Shield qui avaient balancé une tonne de missiles sur leur gueule, un petit peu façon X-Men First Class, le film. Donc voilà, ils sont dans la merde. Et il n'y a pas que des missiles qui explosent, il y a aussi des missiles qui comprennent peut-être des petites surprises. Donc voilà, on a droit à de la bonne grosse baston, une conclusion justement de la confrontation entre les différents X-Men de toutes les différentes époques. Et voilà, après toute une batterie d'épilogues qui vont permettre un petit peu de montrer quelles vont être les conséquences de cet event. Donc des conséquences, on va dire, très minimes par rapport à ce qui nous avait été teasé.
Ah bah c'était, ça allait être ma question justement. Est-ce que ça remplit toutes ces promesses? Parce qu'on nous avait dit, les X-Men ne seront plus jamais comme avant. Bah comme d'habitude en même temps, on va pas te dire un crossover en disant, vous inquiétez pas, au sortir du crossover, rien n'aura bougé. C'est absolument pas vendeur sinon. Mais voilà, puis bon, ça faisait peur quand Bendis nous annonçait à grand renfort de com que tout allait changer et que les X-Men allaient voir un nouveau jour, etc. etc.
Bah c'est pas vraiment le cas. Il y a deux trois petits changements, mais c'est pas la folie au niveau changement. Le statu quo n'est pas énormément modifié à part voilà deux trois petites choses. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé vous?
Pour rebondir ce que tu dis, surtout que c'est des changements qui pour moi sont pas justifiés. Mais enfin donc moi j'ai les dessins, j'ai trouvé ça pas terrible. L'histoire pour moi ça fait un gros plouf. J'attendais
pour le coup.
beaucoup. J'attendais beaucoup mieux de ce numéro. Et j'étais très très déçu, autant par les dessins que par l'histoire. Et les épilogues, pour moi, ça sert à rien. Et le dernier épilogue, l'épilogue 4, pour moi, c'est pas du tout justifié et c'est incohérent. Donc pour moi, j'ai pas aimé ce numéro.
Marty?
Oui, moi je suis très très mitigé. J'ai beaucoup aimé le crossover dans son ensemble, j'en garde un bon souvenir. Mais
C'était ta première et dernière participation, donc. Je plaisante.
Merci, ce fut un plaisir.
Je plaisante.
Non, bon, c'était trop bon, c'était clairement trop long, hein. C'est 10 parties pour ça. Non, c'est trop. Et j'ai trouvé dans cet épisode, alors que c'est Aaron qui l'écrit, j'y ai trouvé des faiblesses que j'aurais plutôt vues chez Bendis. Du genre déjà les pouvoirs qui sont parfois bizarrement utilisés. Notamment, ça m'a bien fait rire quand au début on voit tous les missiles qui tombent dessus et ils sont tous la bouche bée, genre. Et il demande à Magneto, peux-tu les arrêter? Et Magneto qui prend quand même le temps de dire non, alors que bon, on sait que avec ses pouvoirs il pourrait les arrêter ou faire une bulle ou ce genre de choses qu'on a déjà vu faire. Et bon, il prend quand même bien le temps de dire non, je ne peux pas. Soit. Puis ensuite, il y a la grosse baston qui finit d'une manière. On vous laisse découvrir comment, mais moi, franchement, ça m'a fait hausser les sourcils. Alors, et puis ensuite, pour les épilogues, je vais rejoindre mes compères. Hein. Je suis moyennement satisfait aussi de ce qui s'y raconte. Je suis aussi très mitigé par rapport à la situation finale. Ensuite, concernant les dessins, là aussi, enfin, contrairement à Bruno, j'ai pas trouvé que Ribic était aussi bon que d'habitude. Alors par contre, je sais pas si c'est voulu ou non, mais il y a un changement de dessinateur à la page 16, où qui nous montre les X-Men originaux, et d'un coup, le dessin paraît rétro. Alors si c'est voulu, c'est très bien. Par contre, si c'est pas voulu, c'est un gros foirage.
Alors, je pense que c'est voulu, effectivement, puisqu'il y a même des, on en a parlé, des reprises un petit peu de scènes classiques des X-Men, voilà, de façon moderne, mais donc, gros clin d'œil à mon avis.
Oui, tout à fait.
J'ai une grosse déception, c'est qu'au final, alors on nous a dit que c'était une idée de Jason Aaron, c'est même lui qui écrit la conclusion, et à aucun moment on ne voit de lien avec les futurs qu'on a pu voir dans Wolverine and the X-Men. Souvenez-vous, dès le premier arc, on voyait un futur avec le jeune Apocalypse qui affrontait Quentin Quire et les autres jeunes X-Men. Puis après, on a eu récemment un autre épisode qui se passait encore une fois un peu plus loin dans le futur avec Wolverine vieux qui faisait une certaine chose. Alors, a priori, ça semble lié à ce futur, mais c'est très flou, je trouve. Enfin, là, j'étais très déçu. Et d'une manière générale, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu une vraie partie de l'intrigue qui se passe dans le futur. On a eu une petite incursion vers la fin du dernier acte, mais c'est tout.
Eh bien, ça me donne raison. J'ai bien fait d'arrêter. Tadam! Franchement, enfin, vu ce que vous en dites, alors que la plupart vous étiez relativement enthousiaste au début de ce crossover et même tout du long ou presque, alors que moi j'étais déjà à avoir envie de m'ouvrir les veines au bout de la deuxième partie, je me dis que j'ai bien fait d'arrêter parce que je pense que je serais mort à l'heure actuelle.
Après, il y a quand même deux trois petites choses hein, qui changent. Hein. Il y a des persos
ouais, la
qui
couleur
rentrent
des
peut-être
chaussures de
pas.
Colossus.
Non, mais il y a peut-être des
Colossus, c'est une
persos, des
belle
nouveaux
moustache.
persos du coup qui vont intégrer la continuité, qui sont peut-être intéressants. Il y
Ah
aura
oui,
sans
donc
doute des.
il y aura quand même des conséquences à.
Il y aura des aftermaths de cette arrivée du futur de certains personnages.
Si c'est aussi bon que les aftermaths de Age of Ultron.
Et maintenant, repensez à ce que Bruno vient de dire et pensez aux pitchs de départ. On va renvoyer les jeunes X-Men du passé dans le passé pour qu'il y ait moins de monde issu d'autres timelines qui squattent.
Mais oui, non, mais
Voilà.
c'est
Ah, ils sont un peu
béni.
nuls pour ça.
Comme vous disiez, c'est écrit par Jason Aaron, mais est-ce que franchement, Jason Aaron a vraiment eu les mains libres sur ce crossover? Est-ce que c'est pas Bendis qui a tout chapeauté comme
Bah,
d'habitude?
si.
En fait, je pense que ce qui est marqué sur la couverture, ça révèle par qui a été écrit le crossover. C'est un crossover de Bendis. Et ils l'ont mis sur le dos de Jason Aaron pour que ça soit plus facile à avaler
Mais
pour les lecteurs, quoi.
de
Par
toute
contre.
façon, ça partait du postulat de départ de la série de Bendis, c'est-à-dire
Oui, tout à fait,
les
ouais.
jeunes X-Men du passé, qui sont le centre du crossover.
Mais pour rebondir sur ce que dit Marty, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé enfin dans l'ensemble du crossover, mais là, j'ai vraiment été déçu parce que je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. J'ai vraiment été déçu. Pourtant, c'est Jason Aaron, donc ouais,
Donc,
c'est
contre,
moche.
je pense que le grand gagnant finalement pour moi, c'est Brian Wood. parce que son deuxième épisode, le premier était bof bof, je sais qu'il faisait pas l'unanimité ici, le deuxième un peu plus, et finalement ben il se sera fait un petit peu sa petite pub, regardez j'ai aussi une série de mon côté et je sais écrire mes persos, et regardez c'est cool, Jubilé a même un gosse et j'arrive à en faire quelque chose, et surtout je vous promets, la condition de vampire de Jubilé, ça va s'améliorer.
Et en parlant de pub, y en a une dans les épilogues faites par Jason Aaron qui est très voyante et ça m'a un peu gêné, quoi.
Pareil.
Ouais, c'est pas très subtil, effectivement.
Si ça avait été avant l'annonce de ce qui va se passer dans Amazing X-Men, là, ça aurait été plus intéressant, mais là.
D'accord. Donc, vos notes, messieurs.
Ça reste un bail quand même pour moi. Voilà, une fois qu'on a acheté tout le crossover, ce serait dommage de pas avoir la conclusion. Donc,
ouais, mais qualitativement parlant, en ne jugeant que cet épisode.
En ne jugeant que cet épisode, ça reste un bail quand même. J'ai passé un bon moment. C'est quand même extra size.
J'ai un message de Mr. Honey Bunny que j'ai eu juste avant l'émission qui m'a dit « Je n'irai pas dans un comic shop où une personne dit un bail pour Battle of the Atom numéro 2. » Il a trouvé justement que
de
c'était
un véritable
scandale.
De toute façon, il y a
scandale.
Une pancarte qui interdit la venue de Mr. Honey Bunny dans notre comic shop. Ouais, c'est ça.
Mr. Honey Bunny n'ira pas à Bordeaux. Donc.
On tire à vue sur les bunnies.
Mais dans une région où on produit beaucoup de vin, voilà, c'est normal, il faut manger du lapin, c'est très bon avec le vin.
Tout à fait.
Valentin, toi, ta note.
Moi, c'est un check-it à la limite du pass. Alors, je sais que voilà, c'est le dernier numéro du crossover, donc ceux qui l'ont suivi, ils vont l'acheter. Mais qualitativement parlant, pour moi, c'est limite un pass, quoi.
Marty.
Check-it moins. C'était le moment de tout donner, de montrer que oui, c'était longuet, mais il y avait quelque chose derrière et il foire. Ça fait pouf.
Plouf.
D'accord. Voilà. Bon, je reste content de ne pas avoir lu la fin. Allez, passons à la suite. On continue avec un autre event, c'est Infinity. Le numéro 5 est sorti cette semaine. Comme quoi, la dernière semaine du mois, on n'a pas que du rien. C'est écrit par Jonathan Hickman, bien sûr, avec des dessins de Jérôme Peña et Dustin Weaver. Et on s'approche vraiment du final, ça se voit. On suit les Avengers qui vont libérer peu à peu les différentes planètes qui étaient sous le joug de ces Builders et de ces Alephs. Et du coup, les Avengers vont acquérir un nouveau statut dans l'espace. Et on va avoir des Avengers World. Avec une page qui est très cliché, certes, mais qui est très efficace, je trouve.
Ah, très efficace, effectivement.
Cette espèce de
plantage,
cette espèce de plantage de bâton avec
le mythique.
As, très 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 joli. Enfin, voilà, quelque chose qu'on a déjà vu. Ça rappelle aussi pas mal la cover du Justice League of America numéro 1 sorti récemment.
Oui, ça parle beaucoup aux Américains puisque c'est tiré quand même d'une peinture assez célèbre. Mais c'est vrai que c'est très sympa et ce côté Avengers World, du coup, ça devient un petit peu logique le futur titre All New Marvel Now qu'on va avoir.
Ouais. Donc, et puis ça peut lancer des bonnes idées, des bonnes histoires. À voir comment ce sera exploité. Et si c'est exploité et pas comme les choses des derniers events. Où en fait on lance des pistes mais on n'exploite rien. Aussi bonne ou mauvaise qu'elle soit, finalement on ne s'en sert pas. C'est un peu le problème. La suite, c'est que le fameux fils de Thanos va enfin apparaître vraiment.
Le petit Thanos.
C'est. Je sais pas quoi en penser pour le moment. C'est peut-être un peu trop puissant à mon goût. On verra si ça fait pas Deus Ex Machina. J'ai bien peur de la fin.
Puissant mais un petit peu débile, hein.
Ouais. Bon, on va dire qu'il a pas choisi sa condition, histoire de rattraper le truc. Mais c'est pour moi la partie la plus faible, on va dire, au niveau de la qualité d'écriture de Jonathan Hickman. Et enfin, les Avengers, j'allais dire les X-Men, les Avengers vont apprendre que la Terre est complètement ravagée par Thanos et qu'il va falloir rentrer pour le combat final. Voilà. Une bonne mise en bouche pour une dernière partie qui s'annonce très intéressante.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Steve. À noter également quand même que la partie graphique défonce toujours autant. C'est hyper impressionnant, c'est très très beau. Que ce soit les pages de Peña ou les pages de Dustin Weaver, on en prend plein les mirettes.
Complètement.
C'est vraiment du grand spectacle, mais pas bête. Il y a vraiment beaucoup de choses sur plusieurs fronts et c'est bien géré, c'est clair. Y a pas du tout de, enfin c'est pas du tout compliqué à saisir, mais en même temps
Ouais.
c'est intéressant. Donc
Mais c'est bourré d'idées. Ce que je trouve intéressant, là justement, on a aussi le problème que vont poser l'équipe des Illuminati dans les pages de New Avengers avec cette espèce d'arme qu'ils avaient créée, dont
ouais, tout
Thanos
à fait.
récupère les codes d'accès, qui peut poser problème. Alors je sais pas s'il va avoir le temps de tout traiter. C'est ce qui me fait peur d'ailleurs. Est-ce qu'il aura le temps de tout traiter dans le 6, ou il risque pas de nous expédier tous les trucs d'un coup et donc on ait une lecture trop rapide, à moins qu'il nous fasse un épisode de 128 pages, peut-être. C'est encore possible, mais
Ça se termine avec un New Avengers qui sera épilogue à justement Infinity, donc ce sera peut-être dans ce numéro que ça va se terminer.
limite, il y aurait assez d'histoires pour tenir 6 mois de plus en aftermath, tu vois.
Ah oui, bah tout à fait, hein.
Bon, l'avantage, c'est qu'on sait que Jonathan Hickman reste sur les séries actuelles qu'il tient, donc Avengers et New Avengers, même en rajoutant une autre, mais il reste sur ces séries-là, donc il va peut-être pouvoir explorer les différentes conséquences à cette histoire. Ce que j'espère qu'il fera, et pas repartir sur autre chose tout de suite. Mais voilà, moi j'ai juste la crainte que ce soit trop rapidement expédié pour le numéro 6. Sorti de
Ouais,
là, voilà, très très bon épisode.
très bon épisode. Et puis il y a un personnage qui ressort du lot, c'est ce fameux Ebony Maw, qui on sent qu'il cache des choses, qu'il a aussi un agenda secret face à Thanos. Et moi j'aime bien ce
Ouais,
perso, complètement barré.
c'est un peu trop flagrant de ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Toi, tu caches un truc, c'est obligé. Bref, un véritable bail pour ce Infinity 5 et un très gros coup de cœur pour l'event en entier. En tout
Ouais,
cas,
pour l'instant, ouais.
vraiment bien tenu.
Gros bail.
Gros bail pour ma part aussi. Je vais très vite passer sur l'Avengers 22 qui est sorti cette semaine et qui est tie-in à Infinity et qui se lit après Infinity 5. Là, par contre, c'est vraiment un épisode décevant, mais vraiment, vraiment décevant. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, vous pouvez le zapper celui-ci, vous ne manquerez aucune info. C'est juste les gens, enfin les Avengers qui sont présents sur le vaisseau du retour pour revenir vers la Terre, qui attendent et qui ont un petit peu peur. Certains, c'est leur première grosse mission. Ils se disent, oh, on n'avait pas signé pour ça, en tout cas pas pour un truc aussi gros tout de suite. Voilà. Et c'est franchement, il se passe rien. Donc honnêtement, si vous êtes short ce mois-ci, enfin cette semaine, bah, zappez-le, vous n'apprendrez rien. Les crédits, je vous les donnais quand même, hein. Jonathan Hickman est au scénario, Lenny Francis Yu au dessin, Gary Alan Guillen à l'ancrage, pardon. Donc bah, pour moi, clairement un pass, pas parce que c'est mauvais, pas parce que c'est mal écrit, juste parce que ça ne sert à rien dans l'histoire. On va passer à la suite, on va rester dans le Galactique, et pour sa première review, Marty va nous présenter Guardians of the Galaxy numéro 8.
Et oui, je dirais même plus que rester dans le Galactique, on reste dans Infinity, car, miracle, Bendis prend en compte le fait qu'il y a un event qu'il n'a pas écrit lui-même. Et oui, enfin, les Guardians entrent dans Infinity, c'est en gros sur la cover. Alors donc, comme je viens de le dire, c'est encore une fois Bendis qui écrit, mais ce coup-ci, ce n'est plus Sara Piccelli qui est au dessin, la pauvre, vu qu'elle était malade, elle peut enfin prendre un peu de repos, mais Francesco Francavilla, qui est, comme d'habitude, juste sublime. Peut-être un peu
Ça
moins
déchire
d'habitude.
tout.
On perd pas trop au change quand même, hein.
Non.
Non, ça déchire tout.
Non, c'est très bien. C'est pas son meilleur boulot, mais ça reste très bien.
Cette
Et
série est
puis.
peut-être assez moyenne depuis quelques mois, mais en tout cas, en termes de dessin, ça reste vraiment l'excellence.
Eh ben, figure-toi qu'en termes de scénario, ça remonte aussi. Alors, je sais pas si Neil Gaiman, qui est là en tant que consultant, s'est enfin décidé à branler quelque chose. Excusez du terme, mais on peut pas dire qu'il ait fait grand-chose jusque-là. Et
Pas
donc,
sûr
je
parce
suis
qu'il est
pas
pas mal
sûr que ce
occupé
soit
sur sa mal
Gaiman, là.
ouverture en plus.
Oui, bien sûr. Mais donc, le scénario, ça bouge un peu plus. C'est bavard pour du Bendis, mais ça se lit pas en 5 minutes, ça se lit plutôt en 8 minutes 30 ce coup-ci.
Ah, et 2 minutes 30 de gagner, 3 minutes 30 de gagner d'ailleurs, je vais apprendre à faire une addition. 3 minutes 30 de gagner, c'est pas mal.
Bon, oui, surtout pour Bendis, c'est bien, Brian. Et donc, on rentre donc de plein fouet dans Infinity. Alors, j'ai du retard, je sais pas vraiment à quel moment ça se passe par rapport à Infinity, mais
C'est quand il y a
ici.
Ultron qui arrive, hein, c'est ça.
Oui, voilà. C'est quand Ultron arrive et que le Beyonder fait disparaître New York. Et donc, les Guardians répondent à un appel à l'aide du Pic. Et là, Steve, ça va te faire plaisir, hein. Il n'y a pas marqué The Pic 2, c'est The Pic.
Ouais, mais alors, ça a été expliqué très vite dans un des. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. Ça a été expliqué très vite, je sais plus si dans l'Avengers 22 ou le Infinity 5, que le Pic a été reconstruit.
Ah.
Voilà.
Ah.
Ouais, je crois que c'est dans
Donc
l'Avengers
ils t'ont
22.
écouté alors.
C'est dans l'Avengers 22, puisque si ça te dit rien, Bruno, c'est forcément
Non,
celui
ça
que
me
j'ai
dit
le plus
rien,
sain.
ouais, toujours.
Ils disent que le pic a été reconstruit en fait exactement sur le même modèle, mais encore en plus balèze.
Ah. Puis comme c'est connu,
J'adore
hein.
les comics.
Enfin, il a enfin pris en considération ce qu'avait écrit Remender.
Et puis c'est connu, hein. Enfin, c'est logique. Un vaisseau comme ça qui est la taille d'une ville dans l'espace, ça se répare en 2 semaines, vite fait, bien fait, sans que personne ne le voit.
Ouais. Bah, de toute façon, en même temps, vu le nombre de fois ils ont déjà reconstruit New York, je pense qu'ils sont habitués à reconstruire des
oui,
trucs.
Puis, oui, pareil, hein, les carrières aussi, hein, ils en construisent tous les 4 matins.
Bah, ils font appel à Damage Control.
Bah, tous les super-héros ouais. qu'on voit jamais, qui sont super balèzes, bah, quand on les voit pas, c'est qu'ils sont en train de reconstruire des trucs. Et donc,
ouais, ça doit être ça.
Et donc, on retrouve évidemment Abigail Brand, qui, je trouve, est écrite plus ou moins comme Maria Hill. Bon, c'est une peau de vache comme elle d'habitude, mais là, je trouve que Bendis, il a pris son imaginons qu'il existe un calque d'écriture, ben il l'a pris. Hop là, il a gommé Maria Hill dessus, il a marqué Abigail Brandt. Bon, je suis un peu vache, mais honnêtement, moi, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, ça se lit bien, c'est dynamique, c'est rigolo, il y a des touches d'humour, notamment avec Groot et Rocket Raccoon. Par contre, je trouve qu'il s'est un peu foiré niveau temps, parce qu'on a l'impression que ça se passe tout de suite après l'épisode précédent. Et pourtant, ben Stark n'est plus là, Infinity a déjà commencé, enfin, on a l'impression d'avoir loupé un épisode, c'est un peu bizarre. Mais bon, mis à part ça, ça relève vraiment le niveau par rapport aux deux derniers épisodes qui ont été très critiqués sur le site, que ce soit par écrit ou dans les podcasts.
Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Bon, la partie graphique, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai une petite pensée pour toi, Steve, puisque enfin... Ils reviennent sur ce qui s'est passé dans le Core Server. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais ils l'évoquent.
Sans déconner.
Donc, non, mais je rigole, mais il y a une page entière où en fait ils évoquent ça. Et
ils avaient
voilà.
déjà plus ou moins parlé du Core Server, puisqu'il y avait une référence à ça, et Star-Lord avait dit « je veux pas en parler ».
Bah, je crois que le pire, c'est qu'ils refait la même chose, mais sur une page entière, et on voit qu'ils savent toujours pas ce qu'ils vont dire, mais... Un jour, ils vont en parler parce que là,
sauf
ils seront obligés, quoi.
Les torgnoles. Gamora, elle est pas contente. Elle le secoue, allez mon coco. Maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais il ferme sa gueule quand même. Mais bon, ça m'a fait rire. Voilà, un numéro très sympa. Ça bouge bien et voilà, je suis content qu'il soit rentré dans Infinity et j'ai bien aimé le cliff
bon,
à la fin.
On arrive à la fin.
Voilà, j'ai bien aimé la fin. Ça donne envie de voir la suite. Donc,
par contre, j'ai pas l'impression que ça sert dans Infinity.
On verra.
Peut-être qu'à cause du décalage, du coup, on perd peut-être en substance. C'est vrai qu'il y avait eu ce petit mois de décalage. On verra. J'ai bien peur, effectivement, que. Bon, de toute façon, déjà, est-ce que ça servira vraiment le propos ? Je suis pas certain. Ça servira. Je pense que Jonathan Hickman se suffit à lui-même pour la compréhension du crossover. Maintenant, c'est vrai qu'avec le mois de décalage, peut-être qu'on aura des petits éléments en retard. Bon, on a l'habitude de faire avec hein, chez Marvel, et d'ailleurs, chez tous les éditeurs, les gros éditeurs, quand il y a des crossovers, il y a toujours des petits ratés comme ça.
On verra, mais il y a peut-être des choses qui vont se passer avec Gamora et Thanos qui pourraient avoir un rôle dans Infinity.
D'accord.
Et autre point qui est notable, il n'y a pas 10 000 couvertures alternatives ce mois-ci, enfin. Il y en a une seule.
Ouais, c'est quand même à noter, effectivement. Donc, Marty, pour toi ?
Ah, pour moi, ce sera un bail, ça y est, c'est un bon bail, un bail honnête, comme dirait Benny.
Ok, et Bruno, tu l'avais dit, un bail
aussi.
Et un bail
aussi, ouais.
Ouais. On passe au Superior Spider-Man Team-Up Special, numéro 1, mais bon, j'adore quand il marque numéro 1 pour un one-shot, ça me fait chaud rire. C'est la fin de ce fameux crossover The Arm of Octopus, qui avait lieu donc dans les pages de numéros spéciaux, je rappelle le All New X-Men Special et le Indestructible Hulk Special, sortis respectivement il y a 3 semaines et 2 semaines. Enfin, la fin, j'avais peur d'avoir raté la semaine dernière, je me suis dit, merde, je l'ai pas lu, il y avait une semaine de décalage, je pense que c'était peut-être pour gonfler cette semaine un petit peu plus légère, puisque c'est la cinquième semaine du mois. Écrit par Mike Costa, et dessiné cette fois-ci par Michael Dialinas, j'espère que j'ai bien prononcé, qui le dessine et qui l'encre. C'est pas trop mal, encore une fois, un style assez rétro, visuellement.
Tout à fait.
Ça correspond bien avec cette espèce d'ambiance un peu 60s, 70s que l'on a dans le crossover.
Tout à fait.
On va avoir une fin bah, qui est dans la droite lignée de ce qu'on a vu dans les deux premières parties. Quelque chose de fun, de léger, qui n'aura pas des masses de conséquences, mais qui donne un petit peu plus d'épaisseur au perso. Les 5 persos de All New X-Men, ces 5 jeunes qui vont devoir gérer avec les conséquences d'avoir voyagé dans le temps et donc de pas connaître tout. Voilà. J'ai pas grand chose à raconter pour éviter de trop spoiler. Bien sûr, l'histoire va être réglée à la fin. Voilà, il y aura. Enfin, d'après ce qu'on peut voir, je pense pas qu'il y ait de suite à ça.
Non, je pense pas non plus.
Mais vraiment, si vous avez aimé les deux premières parties, vous adorez cette troisième. Vraiment sympa, quoi.
Tout à fait.
un Spider-Man plus présent, si, c'est normal, c'est quand même le supérieur Spider-Man team-up.
C'est lui qui est mis à l'honneur ce coup-ci. C'est...
Ouais. Mm.
Et puis,
qui fait sa tête de con, mais finalement, qui a quand même un petit peu un cœur.
Mais ouais. C'est normal qu'il ait une tête de con en même temps.
Oui, bah c'est Octopus, hein, rappelons-le.
Mais les autres persos sont pas laissés en reste non plus. J'ai bien aimé la blague sur le caleçon de Hulk.
Oui, moi aussi.
Oui, voilà, il y a des petites références, il y a des petites touches d'humour comme il y avait eu dans les deux premiers finalement.
Exactement.
Oui.
Le scénariste, bah, même si le dessinateur change, le scénariste est le même et il a vraiment gardé le même ton du début jusqu'à la fin. Bah, j'espère qu'on le reverra sur d'autres projets chez Marvel. Peut-être des projets un peu moins en vue, pourquoi pas. Mais si ça permet d'avoir du bon travail comme ça, je préfère le voir sur des plus petits projets et lire des bonnes choses comme ça. Finalement, moi, le meilleur crossover X-Men de ces derniers temps, bah, c'est celui-ci et pas Battle of the Atom. Quoi.
Je pense que pour lui, c'était peut-être même un galon d'essai. C'est... Allez, ça. Tu nous proposes des bonnes idées, tiens, on va te donner ça, vas-y, fais-nous quelque chose.
Et ouais, je suis pas certain que les prétentions de vente étaient énormes.
Non, mais c'était pour le tester.
Ça marche, et puis ça marche pas, tant pis.
Oui, non, mais c'était pour tester juste son écriture à lui. On a vu ça plusieurs fois, des scénaristes qui sortaient des trucs qui vendaient pas spécialement beaucoup, mais qui avaient bonne presse, et qui ensuite se voyaient donner d'autres travaux.
Exactement, ouais.
Et j'ai bien aimé, c'est que il justifie le fait que ça soit Hulk, Spider-Man et les X-Men qui soient en crossover. Et ça, j'ai bien aimé parce que mine de rien, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et ça m'a fait plaisir de voir que ça a été justifié. Après,
exactement. Ouais, c'est pas laissé au hasard, effectivement.
Voilà, tout à fait. Donc.
Et aussi, ce qui est bien, c'est que on a vu ça déjà dans les deux premiers, c'est qu'il y a un respect de ce qui se passe dans les autres titres. Enfin, il y a un respect de la continuité actuelle. Dans le premier, par exemple, il parlait du baiser entre Beast et Jean. Un baiser qui, d'ailleurs, Bendis lui-même, il l'a pas traité autant depuis que ça arrivait, c'est dire. Et là, ce coup-ci, on a droit à la catchphrase Hulk Smash Banner Builds. Il me semble que c'est...
C'est qu'a amené Mark Waid dans sa série.
C'est Mark Waid, voilà.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on reverra cette espèce de petit crush qu'a développé Beast pour ce personnage dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, cette jeune rousse, hein, comme par hasard rousse. Sais pas, mais en tout cas j'espère qu'on la reverra parce que c'est un personnage qui peut être intéressant, qui peut donner un peu plus d'épaisseur au personnage de Beast.
Moi je vais te répondre tout de suite, Steve. Comme c'est quelque chose que Bendis ne va pas prendre en compte, on va pas la revoir.
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, même si j'y crois pas non plus.
C'est surtout qu'il aurait enfin une copine qui peut comprendre ce dont il parle, quoi. Parce qu'elle est scientifique elle-même.
Ouais.
Par
contre, elle doit être un peu plus vieille que lui, je pense. Mais bon, pourquoi pas. On a l'habitude de voir, surtout même dans les comics,
2-3 ans peut-être, pas plus.
Oui, voilà, oui. Mais on a l'habitude de voir des couples où le garçon est bien plus âgé, le contraire, ça ferait pas de mal aussi.
Puis en même temps, Beast est déjà tellement bien formé comparé à ses comparses, qu'il paraît, en termes de musculature, de taille, etc., qu'il paraît tout de suite beaucoup plus vieux que les autres, alors qu'il a le même âge qu'eux, finalement.
Bah, il joue même ça dans la première partie, il joue même là-dessus, il me semble.
Je suis en train de penser... avec les sollicitations, il y a de grandes chances que ça soit dans longtemps, par contre, qu'on la revoie.
Bah, peut-être, mais si on la revoit, si c'est un personnage qui revient, pourquoi pas, tant mieux. Tant mieux.
On n'a pas la peine de le revoir.
Non, c'est pas la peine. Mais bon, là, il y a toujours une porte ouverte, hein, qu'il arrive, pour une possible suite. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon.
J'ai été un peu déçu, finalement, par les motivations du méchant. Ça reste sympa.
Je sais pas, ça se tient. Moi, je trouve que c'est même presque plus tenu que certaines autres motivations qu'on a pu voir ces dernières années, quoi.
Oh oui, bien sûr. Oui.
C'est ce que je disais, ça justifie. Et... Moi, j'ai trouvé les motivations. Bon, c'est sûr que c'est pas non plus la super grande motivation, mais ouais, c'est pas, ça se tient.
Et je pense qu'il faudrait aussi parler du cover artiste, Alexander Lozano. Je vous invite j'ai fait quelques petites recherches pour voir qui c'était, et je vous invite à voir son Tumblr, parce que il fait des illustrations qui vraiment ont de la gueule.
Ouais, il y a un style vraiment différent. Bien sûr, la cover n'est pas du tout équivalente à ce qu'on a à l'intérieur, mais c'est un style assez sympathique. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse être un artiste d'intérieur.
Et c'est comme Del Otto, c'est mieux pour les grosses, pour les illustrations, ou alors pour de très rares projets spéciaux, mais sinon non, dans un comics mensuel, non.
Ouais.
Donc finalement, pour cette troisième partie, en tout cas pour moi, c'est un gros bail.
Également un gros bail.
Un gros bail pour moi, ça a même failli être mon coup de cœur.
Ouais, pareil pour moi, ça a failli être mon coup de cœur de la semaine. Non, vraiment un truc sans prétention et qui tient toutes ses promesses et même au-delà, je trouve.
Ouais, ça fait penser à c'est comme vous l'aviez dit il y a 3 semaines que vous avez parlé du premier, ça rappelle les arcs sur plusieurs annuals. Et il y a quelques années, on avait eu sur plusieurs annuals l'arc Escape from Negative Zone, ou ce genre de choses, des petites histoires sans prétention, avec en plus des gens qui ont œuvré dessus, qui ont décollé ensuite. comme sur pour Negative Zone, c'était le dessinateur de Wolverine and the X-Men, j'ai le nom qui m'échappe, Nick Bradshaw par exemple.
Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire pour ce Superior Spider-Man Team-Up Special. Et on va rester sur le Superior Spider-Man, puisque c'est sorti du numéro 20, Valentin.
Tout à fait, donc toujours écrit par Dan Slott, dessiné par Giuseppe Camuncoli et ancré par John Dell. Donc on suit Peter qui va enfin présenter sa thèse face aux gens de son école. Et suite à la fin du dernier numéro... va créer sa propre ses propres laboratoires. On voit aussi également Carly qui va, grâce à ce qu'elle a trouvé dans le précédent numéro, va aller voir les Vengeurs pour les prévenir de ce qu'elle a trouvé. Et donc on a aussi au début d'épisode un rappel du 700. Et donc pour moi c'est un bon numéro. Il y a quelques petits clins d'œil. Par exemple, on voit sur un panel Mario, donc ça fait plaisir, ça fait marrer. Les dessins sont vraiment bien. On a aussi le début de l'histoire avec Black Cat. Donc pour moi, c'est un bon numéro et j'attends de voir la suite. C'est un bail.
Numéro que tu n'as pas eu le temps de lire, hein, Bruno, cette semaine.
Non, pas encore.
Toi, ouais. Qui suit pourtant avec assiduité. Oui, oui.
Superior Spider-Man. Très bonne série, effectivement, mais j'ai un petit numéro de retard.
Oui, mais normal, en même temps, tu as une journée compliquée à ton comic shop, hein, c'était Halloween.
Oui, Halloween, exactement, c'était très sympa.
Vous avez offert des comics ?
Oui, exactement, il y avait le Halloween Comic Fest, mais j'en parlerai tout à l'heure.
Eh bien, on va continuer et terminer avec Marvel sur cette semaine pour la sortie de Cataclysm 0.1, Marty.
Ah oui, bah, autant terminer sur une série qui parle de la fin. Donc je m'attarderai pas trop dessus parce que personnellement j'ai pas été emballé. Donc en gros, sans spoiler, mais je vais résumer rapidement. Vision, qui était l'espèce d'émissaire de Galactus, du Galactus Ultimate, va rencontrer notre bon vieux Galactus à nous, et il advient ce qu'il advient. Alors moi, bon, j'ai pas lu Hunger, j'ai pas lu non plus la mini-série Vision. Alors j'étais un peu surpris de voir quelle était sa situation et sa relation par rapport à Sam Wilson, le Faucon, qui sont ici donc en couple dans cet univers. Bon, pour moi, ça marche pas du tout parce que elle paraît inhumaine à la fois dans sa façon de se comporter et son design. Pensez au couple robot qu'on a eu comme la Vision, Red Tornado, etc., qui eux ont un look très humain et carrément une espèce de, ils ont l'air d'avoir une peau. Là, c'est vraiment, au début, on le voit se réveiller à côté d'un, on voit Sam se réveiller à côté d'un tas de ferraille dans son lit. C'est bon, j'y ai pas cru, mais bon, soit, c'est les comics, on a vu pire. Et donc voilà.
Ah, après tout, hein, les sex dolls existent.
Ouais, mais là quand même, faut mettre un bon, même avec un bon coup d'huile, ça risque de faire mal.
C'est peut-être le futur de l'Oculus Rift, hein, cette année.
Et donc voilà, enfin bon, c'est un 0.1. Alors moi, ça me fait toujours marrer. Déjà les points, bof. Alors là, en plus, il y a même pas de 0. Un point, c'est pour un numéro qui existe déjà. Là, il y a pas de 0, donc pourquoi mettre un 0.1? Enfin bon, Marvel et les logiques des chiffres, on repassera. Et bon, par contre, c'est vraiment un numéro 0, ça. Ça tient ses promesses, ça nous ment pas sur la marchandise.
Bruno, ouais. Tu l'as lu aussi, bien sûr, en grand.
Ouais, bien sûr. Alors, ouais, c'est ça. Après Hunger,
c'est pas du tout une critique, hein.
Non. Mais après Hunger, qui vraiment n'était pas terrible, ce numéro m'a un peu réconcilié. Déjà Fialkoff, là, on voit que c'est vraiment la suite de l'arc Ultimate, le dernier, la Ultimate Disassembled. On a des références par rapport à Reed Richards, justement, qui avait pété les plombs. Et moi, qui ai beaucoup aimé la mini-série Vision, justement, l'ancienne. J'ai été assez touché en fait par le développement du personnage, sa relation avec Sam Wilson, justement, je la trouve plutôt bien écrite, et à la fin c'était vraiment touchant, ce numéro, et c'est un vrai bon petit prologue à Cataclysm qui va arriver, et il y a des petites pistes sur comment ça pourrait se dérouler. J'ai de plus en plus d'espoir pour qu'il y ait une suite à l'univers Ultimate. Je sais qu'on n'a pas encore les sollicitations, mais je suis sûr qu'on trouvera une réponse.
Mais c'est sûr arrêtés, pour le moment.
Je suis sûr qu'ils arriveront à trouver un moyen pour arrêter Galactus. Voilà. Après, côté graphique, Mikko Suhayan fait un très bon boulot, tout comme Mirko Pierfederici et Leonard Kirk, puisqu'il y a quand même trois artistes dessus. Voilà, c'est solide. Pour moi, c'est un bail.
Oui, d'ailleurs, à propos des artistes, On peut noter que je pense que c'est sans doute en partie dû à la couleur. On ne sent pas trop le changement. Enfin.
Non, c'est vrai. C'est... Tout à fait.
Moi, je l'ai lu vraiment. Je l'ai lu rapidement. Alors, j'ai pas senti du tout le changement de dessinateur. Et donc, pour moi, ce sera bof. Ce sera bon. C'est un prologue, mais c'est 3,99 si je dis pas de bêtises.
Oui.
Ça fait un peu cher. Enfin, moins cher, ou alors si ça avait été un peu raccourci et accolé au numéro 1, là oui, mais là, enfin, check it moins.
Disons que si on a le budget que pour un seul des deux trucs, entre bon, ce 0.1, même si je sais que c'est pas le même prix, mais acheter le 0.1 ou acheter Hunger, il vaut mieux se contenter d'acheter le 0.1
catégorie. Oui, oui, ça suffit. En plus, il y a 2-3 petites références à Hunger, mais elles sont vraiment pas importantes pour saisir bah, justement le futur event cataclysme. Donc, allez-y plutôt sur ce 0.1 que sur Hunger.
Bah, Hunger doit vraiment pas être important parce que j'ai pas lu Hunger et j'ai pas vu les références, j'ai pas vu de résumé, mis à part Galactus est là, il a fusionné avec Galactus. Autrement, bah, ça m'a pas gêné de pas l'avoir lu.
À noter que le Ultimate Comics X-Men numéro 33 est sorti cette semaine aussi et que c'est le dernier.
Oui,
en tout cas,
fait.
Pour le moment, pas toujours d'annonce. Par contre,
c'est pas vraiment le dernier puisqu'il y a il va y avoir 3 numéros X-Men Cataclysme. En fait, tous les Ultimates, que ce soit Spider-Man, Ultimates et X-Men, vont avoir droit à des mini-séries en 3 qui seront tie-in à Cataclysme. Voilà, et ça va se terminer dans 3 mois avec. Oui ou non, aura-t-on une suite à l'univers Ultimate ou est-ce que ça va être intégré dans la continuité classique certains personnages? La grande question que seuls 2-3 Pékin se posent, dont moi. Donc, voilà.
La petite différence entre notamment Spider-Man et X-Men, c'est qu'à la fin du Ultimate Spider-Man, on a un The End Next Cataclysme, alors qu'à la fin de Ultimate X-Men, c'est ça, on a Next... non, pardon, on n'a pas de Next, on a juste The End. Point.
Ouais, c'est parce que
et
c'est
que
plus...
Et que le Next est dans les pages de...
Tout à fait.
Des lettres, mais la fin n'a pas de next.
C'est parce qu'on change de scénariste alors que Brian Wood s'en va, et puis là, Bendis et Fialkov vont s'occuper de Cataclysme des 4 titres, en fait.
Oui, oui.
Et vont s'occuper de saccager les titres aussi.
C'est ça.
Disons que voilà, on essaye de chercher le moins de petits indices, et ça peut en être un, comme ça peut être
c'est vrai,
tout simplement
c'est
une mauvaise piste. Voilà, c'est tout pour Marvel en tout cas pour cette semaine. On va passer maintenant à notre partie indé. On va commencer avec toi, Bruno, qui va nous parler d'une nouvelle sortie, Ash and the Army of Darkness.
Oui, et c'est scénarisé par.
Ouais. Quoi de bande annonce.
J'aime bien. Et c'est très très Halloween ça comme comics. Donc une sortie le bonjour. C'est écrit par Steve Niles, c'est dessiné par Denis Caliero. Récemment dans le Weekly News, on a parlé peut-être d'un film Army of Darkness 2.
Bah, c'était lundi.
Eh bien, bah là, vous avez un exemple d'un scénario possible, puisque c'est vraiment ça. Ça reprend après Army of Darkness, le film. On retrouve Ash qui est de retour dans son S-Mart, qui est tout content de se vanter auprès des autres employés qu'il a été presque un dieu et un roi.
Mais c'est ce que je fais tous les matins, d'ailleurs.
Voilà,
quand
ça.
J'arrive dans mon S-Mart.
Sauf que ce connard de magicien de Army of Darkness à qui il avait donné le Necronomicon, eh ben, il a décidé de l'utiliser et de relâcher encore toutes les créatures qui, bien sûr, veulent absolument dévorer l'âme de Ash.
Lui aussi,
donc,
il a fait la formule façon
Voilà. Donc il reprend son boomstick et il commence à défoncer du Deadites. C'est classique, mais c'est efficace. Graphiquement, c'est correct, on va dire, mais ils sont pas foulés sur les décors, ça, c'est clair. Mais c'est un bon petit scénario avec, voilà, pour les fans du film, franchement, jetez-y un petit œil. C'est plutôt sympa et on retrouve une écriture, on retrouve bien le personnage de Ash dans ces pages.
Oh, même donc, visuellement, en plus, j'ai l'impression. Enfin, il y a un
ouais,
côté
même
très
visuellement, il y a un
jeune,
effort.
Certes, et moins gros.
Il y a un effort et voilà, il y a une belle couverture de Temple Smith et donc voilà, donc un petit check-it pour cette série fort sympathique.
Et ça fait suite au film ou ça fait référence aux précédentes séries mini-séries qui a déjà.
Alors, j'ai pas lu les mini-séries comics, j'ai vu que le film et j'ai l'impression que ça reprend directement après le film, hein, plus que les mini-séries.
De ce que je viens de fouetter, oui, on reprend même carrément les dernières images de Evil Dead 3. Donc
tout à fait, ouais.
Avec le spell qui roule en arrivant.
Ah, quelle version je ne sais plus laquelle était la.
C'est la version normale, entre guillemets.
Ouais, il y a eu deux versions, c'est vrai.
Ouais, la version normale, ouais.
Mais
donc,
voilà.
Tu as dit un check-it, c'est ça?
Un petit check-it, ouais, sympathique pour les fans de Army of Darkness, je pense que ça peut être un bail.
Et tu continues en passant de Army of Darkness à l'univers le plus coloré et le plus rose bonbon des Link Comics, c'est du Archie. Sauf qu'on est quand même dans la gamme Red Circle, c'est The Fox numéro 1.
What does the
oui,
Fox
the
say?
The Fox, et c'est écrit, enfin, c'est Dina Spiegel, en fait, qui a décidé de redonner un peu sa lettre de gloire à un vieux personnage qui a été créé dans les années 40, qui s'appelle le Fox. Et pour cela, il a demandé l'aide de Mark Waid, qui, pour ce premier numéro, lui a fait donc le script. Et au dessin, nous avons donc, c'est Dina Spiegel, justement. C'est vraiment du comics, on va dire, très old school. On va suivre un reporter qui est également super-héros. Donc c'est très Peter Parker, hein, puisque il
Bon,
est
c'est très semblant à tout ce qu'on avait dans les pulps des années 40 aussi.
voilà, c'est ça. Et en fait, il se sert justement de son statut de super-héros pour avoir des bons scoops en tant que reporter.
Ah, c'est l'archétype de Superman aussi.
Exactement, c'est vrai, ouais, tout à fait.
C'est l'archétype du super-héros, mince.
De base. Et donc voilà, c'est vraiment un comics qui joue à fond sur le cliché un peu old school et avec quand même pas mal d'humour. Un héros qui, bon là, c'est le premier numéro, donc on voit un petit peu son caractère, mais je le trouve pas spécialement hyper charismatique dans son premier numéro. Moi, ce que j'aime bien, c'est le méchant auquel il est opposé, qui est vraiment un méchant basique, bien moche et assez amusant.
Je sais pas, moi ça me fait penser à une autre franchise comics qui a été déclinée en film quand je vois la tête du méchant.
Moi, ça m'a fait penser à Hentai, donc bon.
Oui, il y a des
Clairement, moi ça m'a fait penser à The Mask. Hein.
y a des tentacules qui sortent de sa bouche, donc.
Oui, effectivement, j'avais pas tourné les pages jusque-là, donc je comprends
Après,
mieux la référence au hentai maintenant.
c'est old school, mais alors par contre, les motivations du méchant sont hyper 2013, puisque c'est à fond sur les réseaux sociaux et sur le pouvoir de l'internet. Donc bon, ça c'est marrant justement d'avoir ce contraste. Bon, c'est sympathique. Graphiquement, j'ai pas été hyper emballé. Il y a quelques cases où vraiment la tête du personnage, elle est un petit peu de travers.
Ah, c'est très cartoony, quoi.
Voilà, mais c'est sympathique. Je sais pas ce que t'en as pensé, Marty.
Bon, moi, vite lu, vite oublié, en fait, pour moi. C'était bien, mais ça m'a pas transcendé. Enfin, déjà, j'étais un peu déboussolé parce que le héros, ça commence. Enfin, on voit qu'il a déjà sa petite famille, sa petite routine, et on nous parle de ça comme si on le connaissait déjà, alors que je le connais pas du tout.
Ouais, mais c'est un vieux perso. C'est
Ouais.
vraiment essayer de continuer et de relancer à fond cette gamme Red Circle, qui est donc la gamme super-héroïque chez, enfin, publiée par Archie, mais qui n'a pas forcément de lien avec l'univers Archie lui-même.
Oui,
Il y a
enfin.
quand même un peu de rédactionnel à la fin pour expliquer d'où il vient et qui il est, les différents personnages qui ont interprété le rôle du Fox, puisque ça a été de père en fils, ils ont été Fox. Mais c'est vrai que on rentre dans le vif du sujet dès la première page, en fait.
Bah, la page qui l'aide ou le lien, j'aurais préféré l'avoir au début, du coup. Ça m'aurait permis de mieux comprendre un ou deux trucs, je pense. Mais bon, après, bon, ça reste sympathique. C'est pas possédé, quoi. C'est, enfin, si vous avez vraiment, si rien d'autre de ce dont vous a parlé de vous intéresse, vous pouvez le lire. Mais sinon, pour moi, c'est un check it moi même.
D'accord.
Ouais. Pour moi, ça reste un check-it, à savoir que y a eu quand même pas mal de précommandes sur le titre parce qu'il y avait quatre variants de cover avec des artistes de renom, dont Fiona Staples et Darwin Cook. Donc des choses assez sympas, mais bon, voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que même dans la lettre à la fin, il dit je suis sûr que vous l'avez acheté juste pour la couverture, mais bon, à l'intérieur, c'est quand même sympa. Voilà.
Ouais, non, mais on a quand même de gros noms dessus, notamment Dina Spiegel qu'on ne voit pas souvent, donc.
Ouais, c'est sympa, un petit check-it.
D'accord, très
Bah,
bien.
disons que ça se démarque pas, quoi. C'est
Non, c'est pas hyper hyper original.
pour un numéro 1.
Ouais, mais bon, vu que c'est une semaine un peu plus légère, peut-être que, pourquoi pas. On va terminer notre partie indé avec un titre chez un tout petit éditeur. Ça s'appelle Super numéro 2, Marty.
Et oui, tout petit éditeur, on peut le dire, parce que à ma connaissance, c'est leur premier titre. Donc, ça s'appelle Super, comme Super, mais avec un point d'exclamation derrière, donc vous pouvez le prononcer d'une manière enjouée. Donc, c'est publié chez une maison de presse, excusez mon accent, Unlikely Heroes Studios. C'est un studio qui est créé en 2011 par Zach Dolan et Justin Piatt, qui sont en fait les deux co-auteurs de ce titre. Alors, ce titre Super a été financé via un Kickstarter lancé en 2012, et donc le mois dernier, la série a commencé. Alors, Zach Dolan et Justin Piatt écrivent tous les deux, mais en plus, Zach Dolan dessine, et Piat fait le lettrage. Ils sont aidés également à la couleur par Everardo Orozco et Estela Yanez, que des gens dont j'ai jamais entendu parler et qui, d'après Monsieur Google, n'ont rien fait dans les comics avant.
Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça prouve que Kickstarter, il n'y a pas que du vent dessus. Les choses qui sont lancées arrivent à sortir.
Ouais.
Tout à fait. Et pour le coup, c'est très très bien. Alors, un petit mot juste sur le numéro 1, vite fait, qui est sorti le mois dernier, qui faisait 52 pages quand même, pour le prix, je crois, de 3 euros, merci. Donc voilà, le numéro 1 était bien sans être folichon, il plantait l'univers, il présentait les différents personnages, les différentes factions en place, il présentait l'univers en général. Alors l'univers, ça se veut comme, c'est voulu, c'est la description que vous trouverez sur internet, c'est que ça se veut comme une critique, un peu un pastiche de l'univers grim and gritty, qui est actuellement en cours dans les comics, qui rappelle également les univers Grim and Gritty de 90, et ça sent beaucoup dans les costumes et les personnages. Du genre, vous avez Blood Death, qui est un espèce de Judge Dredd patriote. C'est voilà.
Robert Liefeld aurait pu créer ce personnage.
Ouais, exactement. On dirait Judge Dredd qui a fait l'amour avec un super patriote des années 90. Qui est complètement obsédé par la justice. Enfin, il finit dans le numéro 1 par flinguer un type qui était depuis 32 minutes sur une place de parking réservée pour 30 minutes. Il a dit au type de se casser, le type lui a mal répondu, il l'a flingué. En débitant des choses du genre, la justice, la loi sont immuables, blablabla.
Eh ben, comme ça, il y aurait un peu moins de cons qui se gardent n'importe où.
Hein, exactement. Et j'ose pas imaginer ce qui se passe pour les gens qui font les plus gros délits. Alors donc, c'est assez drôle. Avant.
Pardon, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris.
Alors, c'est assez drôle dans l'ensemble. Alors, dans le numéro 1, c'était raconté par un personnage dont j'ai oublié le nom. C'est malin, ça.
C'est pas grave, ne t'inquiète
pas. Oui, par Blitz, voilà, qui était une fille qui reprenait le manteau. On découvrait dans les flashbacks que c'était elle qui reprenait le manteau de son père. Ici, c'est The Furious Fire Ant, un de ses collègues, qui est le narrateur.
Les noms qui puent les années 90, quoi.
Et en même temps, tous les noms sont déjà pris, alors autant y aller à fond. Et bon, c'est lui le narrateur, mais ça ne s'attarde pas que sur lui. Alors, on découvre leur équipe qui, au début, affronte le baron Blizzard. Un espèce d'allemand avec le casque à pointe gelé, croisement entre Mr. Freeze et n'importe quel ennemi de Captain America. Avec un gag très drôle, quelqu'un lui demande à un moment pourquoi il enlève jamais son casque, il dit parce qu'il est gelé. Parce que le mec est complètement gelé. Enfin voilà, ça vous donne le ton. Alors c'est une équipe dirigée par le professeur Max Archer. L'équipe n'a pas de nom. Dans le numéro précédent, ils essayaient de trouver le nom et Max Archer proposait que des choses du genre Max et les Archonautes, Max et les Maximum Archers, enfin... Voilà, ça lui donne vraiment l'idée du ton. Avec des membres comme The Streak, qui a une super vitesse, mais comme il n'a pas de vêtements qui se déchirent pas comme Flash, il a des vêtements avec Scratch qu'il peut enlever et il court tout nu. Et surtout, on a mon préféré.
Oh, ça a l'air bien débile.
Bruno a l'air bien habitué aux gens qui courent tout nu, d'ailleurs, avec le fait qu'il aille voir des matchs de foot.
Ah oui, enfin, ils
non,
sont
c'est
pas tout, tenus,
c'est tout, c'était pas du tout Bruno qui
tu vois des matchs de foot bizarres, Steve, parce qu'ils portent des vêtements quand même.
Ah non, ça arrive souvent qu'il y ait des mecs qui se.
Ah, pour les streakers. Ah oui, mais j'ai encore jamais vu un streaker en vrai.
Ouais, mais d'où le nom de ce personnage d'ailleurs.
Tout à fait.
Et donc, on a encore, alors attention, The Unquenchable Lush. Lush, celui qu'on ne peut jamais rassasier avec de la boisson. Il y a un personnage, un humain normal, il est toujours avec l'équipe, tout le monde se demande qui c'est. Et en fait, lorsqu'il boit de l'alcool, il devient super fort façon Hulk. Il déchire ses habits, mais il grossit pas par contre. Voilà, vous avez le ton. Et donc, cette équipe essaie de se faire respecter. Bon, ils foirent systématiquement. Dans le premier épisode, ils interviennent à un braquage. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les braqueurs s'enfuient avec la moitié de l'argent. La super équipe de gentils a cramé l'autre moitié. Et ils ont mis en danger la vie des gens qui étaient à la banque. Alors, tout ce qui serait bien passé s'ils avaient laissé les ennemis se barrer. Là, c'est un peu la même chose. C'est la super équipe du coin, les People's Champions. C'est la Justice League de cet univers. Avec une parodie de Superman, le Superstar. Qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le superstar de Buzik et Immonen qu'on a vu récemment chez Glénat, malgré le nom et le look similaire, où on a des parodies on a vraiment des parodies de personnages des années 90, que ce soit dans le look ou dans le nom, ils sont très torturés, des symbiotes. On a aussi même un pseudo Wolverine, mais c'est fait de manière très amusante. Donc voilà, c'est un comics qui est, c'est franchement très drôle, c'est rafraîchissant. Pour quelque chose qui se veut d'amateur, c'est le dessin est très bon. Enfin, amateur, pardon, je veux dire, pour des débutants qui s'autofinancent, c'est très bon. La seule chose, même d'ailleurs, pour moi, qui montre que c'est de l'autofinancement, C'est les bulles et puis le lettrage qui, ça se voit que c'est fait à l'ordi. Mais bon, pour vraiment s'arrêter sur un détail comme ça, faut être un pédo-nazi de l'espace. Ça a... Parce que oui, je reste dans le thème de l'Allemagne.
Ouais, enfin, tu sais, le lettrage, on y prête, c'est quelque chose auquel on ne prête pas attention. En fait, quand il est bien fait, on n'en parle jamais. Mais quand un lettrage est raté, c'est quelque chose qui se voit et qui rend la lecture super difficile.
Oui, mais là, non, ça va, c'est très clair. On voit que c'est que ça n'a pas été lettré à la main. Mais c'est propre. C'est du
de toute façon, aujourd'hui, les lettres ne lettrent plus à la main. C'est des programmes qui le font, mais ils ont juste des vrais programmes qui coûtent super cher, quoi.
Oui, bien sûr. Enfin, je me suis mal exprimé. Je veux dire, on voit que c'est un programme tout fait, mais c'est pas ce qui est le plus dérangeant.
Ah, c'est pas du comics sans MS, quand même.
Ah non, 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 quand même pas.
Oh la honte.
Faut pas déconner. Mais bon, enfin, voilà. Bon, je vous ai donné. Alors, j'ai donné l'impression de raconter beaucoup, mais franchement, j'ai raconté que 10% de toutes les choses amusantes que l'on peut voir dans ce comics. Alors voilà, c'est très fun, c'est assez classique dans l'ensemble quand même. Bon, vu qu'ils sont un peu indés, ils se lâchent, hein, il y a des fucks, il y a des dames, il y a des shit.
C'est pas grave.
Bon, il y en a un peu plus qu'il devrait y en avoir, mais mis à part ça, bon.
Je suis sûr que ça battra jamais Happy de toute façon.
Je crois qu'il y en a au record là.
Happy, c'est un peu le pire épisode de South Park transposé en comics niveau insulte.
C'est ça.
Donc voilà, enfin, franchement, je vous encourage à voir. En plus, pour le prix, là aussi, il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 25 pages pour le 2. Enfin, on en a vraiment pour notre argent. C'est ni trop long à lire, ni trop rapidement. C'est bien dosé. C'est sympa. C'est, si on peut trouver des maladresses, c'est aussi normal. Il débute. Mais franchement, pour un premier jet, enfin, pour une première série, je trouve que ces auteurs-là se défendent vraiment bien. Mmh. Voilà. Et pour moi, ce sera, mon coup de cœur de la semaine et un bail.
Ça donne sacrément envie, franchement.
Le plus dur, c'est d'arriver à se le procurer, en fait, puisque c'est une petite maison d'édition.
Ouais.
Oui, c'est un truc, je suis vraiment tombé dessus par le plus grand des hasards, donc, mais bon, on a parfois des bonnes surprises, je m'attendais même pas à le lire, et finalement, ben voilà.
On va continuer avec un produit maintenant digital. Bruno va nous parler de Disenchanted numéro 1.
Oui, alors c'est entre le digital et le publié, puisque en fait, je vous parlais du Halloween Comic Fest, c'était une série de free comic book qui était distribuée dans les comic shops pour Halloween. Parmi ceux-là, il y avait donc Disenchanted, qui est une production Avatar avec Simon Spurrier à l'histoire et German Eramusp, au dessin. Et c'est aussi du digital, puisqu'en fait, c'est un comics qui se veut dispo gratos sur Internet. Toutes les semaines, il y aura 24 planches qui seront mises à disposition.
24 planches par semaine?
Ouais, 24 demi-planches, en fait.
Ah,
ce qui équivaut à 12 vraies planches de comics.
Ah, c'est déjà... Il faut avoir un sacré rythme, ou alors il y aura des artistes tournants.
C'est ce qu'ils annoncent dans la lettre. Hein. Après, on va voir le rythme. Hein. Il n'y a qu'un numéro pour l'instant qui est sorti. Et puis après, tous les 4-5 mois, ils vont faire un relié qui après sera vendu en comic shop. Mais voilà, leur intention, c'est vraiment de proposer un comics gratuit et dispo sur Internet sur disenchantedcomic.com. Vous pourrez lire d'ailleurs ce comics dont je vais vous parler. Le thème, en fait, ça se passe à Londres. On est dans les égouts, en fait, un endroit plein de détritus. Et en fait, c'est une ville. Il y a une ville qui s'est créée là, une ville qui s'appelle Vermintown, dans lequel on a plein de petites créatures féeriques, dont des fées, des petits gobelins, des tas de petites créatures magiques qui vivent là, un peu comme les mini-pousses, et qui vivent des histoires...
Des petites saloperies, faut appeler les exterminateurs.
Ouais. Ils vivent des histoires un petit peu étranges. Il va y avoir une sorte de drogue. Enfin, c'est vraiment mature, hein, parce qu'il y a de la drogue, il y a du sexe, il y a des fées flics hyper badass. C'est un univers assez original, on va dire. Le premier numéro est curieux, puisque on voit pas trop où il va aller au niveau du scénar, mais ça donne envie quand même d'en savoir plus. Donc clairement, à tester, c'est gratuit. Donc il n'y a même pas besoin de dire que c'est un bail, hein. Vous pouvez le trouver gratos sur Internet.
Mais non, mais disons que le fait de donner la note, ça permet de dire si tu veux payer.
Ouais, tout à fait. Et là, je l'aurais pas payé parce que c'est déjà gratuit en Comic Fest. Mais
si t'avais dû le payer.
C'est un demi-comics aussi, puisqu'il ne propose que 12 pages de comics.
Un dollar.
Allez, à $1, je l'aurais payé. Franchement, j'aurais pas regretté. Et puis, je trouve que l'idée est bonne. Et moi, je dis bravo à ces créateurs qui, en plus, dans la lettre à la fin, c'est très intéressant. Il y a pas mal de textes, mais ils parlent. Ils disent que leur modèle économique, c'est vraiment un truc. Ils sont fiers de l'utiliser. Ils se disent que de toute façon, si les gens ils aiment, ils vont acheter après les reliés. Et que voilà, c'est leur but. Et Donc voilà, donc c'est cool, et Simon Spurrier, on l'a déjà vu sur des titres qui sont pas du tout indés, et il fait des trucs pas mal, donc voilà. Moi je dis, testez, allez voir sur le site internet, et vous serez pas déçus.
En tout cas, ça donne envie.
Ouais, effectivement.
Ouais, ça donne envie, c'est clair.
Il y a du potentiel.
Avec un mec comme Simon Spurrier, en plus, oui, bah, voilà, vous avez un créateur déjà reconnu. Donc voilà, c'est pas le truc en plus où on risque d'avoir des surprises parce qu'on sait pas qui c'est ou c'est un mec qui a rien fait avant. Voilà, c'est quand même un mec qui sait comment marche le comics.
Voilà, après, il y a du potentiel, il faut qu'il aille au bout de son histoire.
Eh bien, on va passer maintenant à DC. On va commencer par une des grosses sorties de la semaine. C'est une mini-série qui s'appelle Damian Son of Batman Marty.
Eh oui, ce fameux Damian Son of Batman. Mais comment ça, Damian n'est pas mort? Eh si, mais on va dire que bon, il doit y exister une terre quelque part où il n'est pas mort. Et on voit ce qui lui arrive ensuite. Alors, c'est dessiné, écrit et fait à peu près à tous les niveaux par Andy Kubert, qui s'était déjà essayé à l'écriture le mois dernier.
Ouais, mais rappelons que c'est un projet qui devait sortir en 2010. Hein,
oui.
Au départ.
Oui, c'est vrai.
Donc ça explique aussi pourquoi c'est pas forcément.
Mais finalement, il a plus de sens maintenant, je trouve. Comme What If, en fait.
Oui, c'est vrai aussi. Et donc le mois dernier, on a déjà pu voir Andy Kubert s'atteler à l'écriture. Et du coup, alors qu'est-ce que ça donne cette mini ? Ici, il est complètement libre, il peut faire ce qu'il veut. Alors moi, d'entrée de jeu, je dirais que je suis mitigé. Dès la première page, j'ai été mitigé parce que je l'ai trouvé moche. je suis pas fan, pas un grand fan d'Andy Kubert, mais je suis pas non plus contre. Mais là, la première, enfin son Damian, il est dégueulasse, je trouve. Enfin, mais bon, ça s'améliore ensuite. Il arrive ensuite à instaurer une ambiance poisseuse, et c'est peu de le dire quand on voit la situation, notamment.
Poissonneuse, tu veux dire?
Poissonneuse, poisseuse, oui. Tout ce qui commence par poids peut aller. Parce que c'est un comics qui aura du poids, sans doute. Et donc, ensuite, je trouve, par contre, son trait s'améliore énormément, notamment là, ce qui se passe quelques pages plus tard, après le moment fatidique qu'on attend tous. Je trouve que c'est vraiment... ça colle bien à l'ambiance. Et d'une manière générale, je trouve son style un peu rétro. Ça me fait penser... Ça me fait vaguement penser de loin à ce que peut faire Neil Adams de nos jours. Bon, mieux quand même, faut pas déconner.
Oui.
Mais seulement sur certaines pages, c'est assez bizarre, ça dépend des pages. Ensuite, au niveau de l'histoire, bon, alors, j'ai trouvé que c'était un peu, il y avait deux, trois choses qui me chagrinaient. Bon, alors, le fait maintenant de savoir que c'était écrit en 2010, ça explique pourquoi on semble apercevoir Barbara sur un fauteuil roulant à un moment dans le coin d'une case. Mm-hmm. Et d'une manière générale, le récit, bon, c'est un premier numéro, ça plante ce qui va se passer, comment réagit Damian. Je trouvais ça bon, on s'y attend, mais j'ai pas été transcendé, voilà. Et ça finit sur un cliff déjà vu, mais bon, attendons de voir la suite. J'ai vraiment du mal à me prononcer.
Bah, je vais rebondir sur ce que t'as dit, Marty, parce que moi, le clip, je l'avais pas vu venir, en fait. Et du coup, moi, j'ai bien aimé ce numéro. Les dessins, je les ai trouvés pas mal. Le fait de voir, justement, Damien, comment il réagit à l'événement, ça, c'est pareil, j'ai bien aimé. Et comme je suis assez fan du perso de Damien Wayne, je suis content de le revoir dans ce What If. Et ouais, pour moi, une bonne petite histoire, et j'attends de voir la suite avec intérêt.
Ouais, bah moi c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai trouvé ça vraiment cool. Alors c'est un vrai Elseworld quoi. C'est pas du tout dans la continuité, comme tu dis. C'est vrai que le coup de Barbara Gordon dans la chaise roulante, on voit que c'est pas du tout New 52. Moi graphiquement j'ai trouvé ça cool. Même la première page, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où les expressions sont un peu exagérées par Andy Kubert, mais ça m'a pas choqué. Il y a quand même quelques planches qui sont sublimes, que ce soit celle qui rend hommage à Death in the Family, ou alors celle où on le voit plein de sang après avoir commis pas mal de, on va dire, de méfaits. Cette scène dans la Batcave, j'ai trouvé assez classe. Il y a deux trois choses que j'ai trouvé intéressante, la partie à l'église par exemple, c'est quelque chose qui est assez inattendu mine de rien et qui j'espère peut-être sera développé plus tard parce qu'il y a peut-être du potentiel. Voilà, c'est un Damian âgé avec sa relation avec sa mère. Je trouvais que c'était bien vu. Et moi je suis comme Valentin, j'ai pas vu venir le cliff et voilà, maintenant je suis curieux de voir comment ça va se développer. Donc une bonne surprise. Pour ce numéro, disons que mini-série en 4.
Le cliff, c'est pas que je l'ai vu venir, mais on a déjà vu ça ailleurs. C'est bon.
Mais moi, pour la scène dans l'église, justement, je me demande si ce qui s'y passe et l'autre personne que Damian n'est pas reliée justement à ce cliff. Parce
Peut-être.
que
Peut-être, mais.
j'ai vu quelque chose de ce personnage similaire dans un épisode de Batman Brave and the Bold, et du coup, ça m'a fait penser, ah tiens, il y a peut-être un lien du coup.
D'accord, bah peut-être, peut-être. En tout cas, y a du potentiel, sachant que c'est une mini-série en 4 numéros, ça va être assez vite plié, et ça peut faire un bon petit Elseworld.
Et surtout, surtout, il y a Jack and Apes dedans.
Ah oui, y a Jack and
Il n'a pas
Apes.
pu s'en
Oui,
empêcher.
bah, Andy Kubert, quand il scénarise, il faut toujours qu'il y ait Jack and Apes.
Bah, je sais pas, moi j'ai pas eu le temps de le lire, je voulais le lire cette semaine, malheureusement j'ai manqué de temps. Je suis moyennement emballé, on va dire. Mais bon. Je donnerai sa chance au produit quand même. Donc vos notes finalement.
Bah, pour
Bye.
moi, check it.
Un gros bail.
On continue avec la sortie d'une autre mini-série, cette fois-ci tie-in à Forever Evil, ça s'appelle Forever Evil Argus, Bruno.
Oui, Forever Evil Argus, c'est écrit par Sterling Gates avec des dessins de Billy Tan, entre autres. Non, de Philip Tan, Neil Edwards et Javier Pina. Donc trois dessinateurs, encore une fois, pour ces mini-séries, ce qui est un petit peu dommage. À chaque fois, il y a quand même une petite. Enfin, ça aurait été sympa d'avoir le même dessinateur partout.
Ouais, bon
Ça
là il y a des
casse un peu.
flashbacks qui expliquent, enfin qui peuvent faire passer la
Oui.
pilule plus facilement pour le côté changement de dessinateur.
Un petit peu, un petit peu. Dans ce numéro, on va s'intéresser à Argus. Le Crime Syndicate est arrivé et ils ont défoncé Argus, ils ont défoncé tout le monde. Il y a la plupart des membres actifs de l'Argus qui ont été décimés. On retrouve un Steve Trevor qui, après Trinity War, en fait, réapparaît, blessé, et il retrouve Eta qui il essaye de savoir ce qui se passe. Et on a droit justement à pas mal de flashbacks qui permettent d'expliquer un peu l'origine d'Argus, comment ça a été créé, dans quelles circonstances. On a également la réponse sur comment ça s'est passé la première rencontre entre Wonder Woman et Steve Trevor. Pas très original, mais c'est au moins c'était intéressant de le voir écrit version New 52. Il y a de l'action, c'est plutôt rondement mené. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est un bon complément à Forever Evil. Je sais pas ce que t'en as pensé, Steve.
Moi, franchement, je me suis vraiment ennuyé.
C'est vrai?
Ouais, j'ai trouvé ça, bah, en fait, presque sans intérêt, quoi. La seule chose intéressante que j'ai trouvé de ce numéro, ça nous explique pourquoi on a un truc centré sur Steve Trevor alors qu'il était censé être avec la Justice League au moment de l'arrivée du Crime Syndicate. Donc maintenant, on sait comment il en a réchappé, avec une explication qui, je trouve, tient la route, même si,
Oui.
bon, après, voilà, le côté, j'ai vu le futur, il faut l'aider. Moi, ça me je me dis pourquoi lui, surtout que bon, enfin, c'est Steve Trevor, quoi. Voilà, c'est pas le personnage le plus emblématique de DC. Elle aurait pu essayer de faire sauver Superman, ça aurait été quand même beaucoup plus rapide pour péter la gueule du Crime Syndicate. Mais bon, passons. Les petits trucs comme ça scénaristiques, bon, ça fait chaud rire. Mais c'est pour moi la seule explication intéressante que je trouvais dans ce numéro, la première rencontre entre Steve Trevor et Wonder Woman, on s'en fout, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt? Surtout maintenant qu'on a quand même une série Wonder Woman, enfin Superman Wonder Woman, pardon, dans le bon sens, qui va
Bah,
explorer la romance entre Superman
oui,
et Wonder Woman.
mais ça permet de combler les trous. Et moi, au niveau de l'intérêt, il y a deux choses qui m'ont plu. Il y a la première page avec un mystérieux personnage qui en veut énormément à Argus, dont l'identité reste secrète. Et moi, ça m'intéresse de savoir ce qui c'est. Et puis il y a les développements autour du Dr. Light qui sont intéressants avec, ben voilà, peut-être la création d'un nouveau super-vilain vraiment intéressant, comme le vieux Dr. Light, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool.
Oui, c'est vrai, il y avait cette première page que j'avais oubliée. Et puis ouais, le cliffhanger, voilà, le cliffhanger avec le Dr. Light, peut-être, peut-être pas, qui sait, etc. Bon, oui, ça peut être sympa. Mais franchement, enfin, le reste, le problème, c'est que Steve Trevor, je le trouve absolument pas charismatique, et c'est le même problème que j'ai avec Cyborg. C'est le genre de personnage que Geoff Jones a voulu imposer dès le départ, avec le début de son run sur la Justice League. Et c'est des personnages qui ne souffrent pas le fait d'être imposés comme ça. C'est des
Mais
personnages de seconde zone qu'on met au premier
pourtant ils
plan.
essayent, parce que moi c'est vrai, j'ai lu Team Seven, qui était
Oui, je
aussi
ne
une
l'ai pas lu
série
ça,
centrée
ouais.
sur lui, et c'est vrai que là du coup ils y font quand même pas mal, enfin il y a pas mal de liens avec ça, surtout sa relation avec Deathstroke, donc c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal développé le personnage. Mais Voilà, c'est vrai que ça se sent, c'est peut-être un peu artificiel cette façon de mettre en avant un
Et
personnage.
voilà, c'est comme Geoff Jones, c'est Chief Creative Officer. Le mec est arrivé avec ses petites marottes en disant ouais, je veux qu'on ait Cyborg, je veux qu'on ait Steve Trevor, voilà, je veux mettre le focus sur ces personnages-là. Le problème, c'est que bah, c'est des personnages qui peuvent marcher, on va dire, un arc rapidement au sein d'une série déjà implantée, mais une histoire vraiment que sur eux. Bof, quoi. Enfin, pour moi, ça me séduit pas. Après, ce n'est qu'un premier numéro, et peut-être que d'ici la fin de la série, si je vais jusqu'au bout, j'aurai complètement changé d'avis. Mais en tout cas, là, pour le moment, je suis pas vraiment séduit pour aller voir un truc sur Steve Trevor, quoi.
Bah, je le trouve.
J'ai trouvé presque que sa comparse plus charismatique que lui.
Je le trouvais bon en personnage secondaire sur Justice League, pourtant Steve Trevor.
En personnage secondaire, mais là, le problème, c'est qu'on nous l'impose en personnage principal.
Et ce qui est embêtant, c'est que le mec n'a pas de pouvoir et que du coup, c'est vrai que c'est pas très crédible de se dire que ce mec sera la solution
ils essaient
à l'invasion
de nous en
du
faire une sorte de Nick Fury de DC en fait.
Il faut qu'il se crève un œil alors.
c'est un peu la sensation que ça me donne, c'est qu'on essaie d'en faire le Nick Fury, le go-to guy en matière d'espionnage quoi.
Ouais, bah, il y avait déjà, il faisait la même chose aussi avec Amanda Waller et.
Ben oui. Ben, c'est pour ça que
ça fait un peu double emploi les deux.
Exactement.
Mais
voilà. Alors t'en as un qui est un peu plus gentil que l'autre, quoi.
Oui. Mm. Bah c'est ça. Il y a la gentille et enfin la méchante et le gentil.
Mais... Et avant t'en avais un qui était un peu plus gros que l'autre, mais ça a changé.
Il y a eu le régime New 52.
Oh, mais ça marche
quand
même
bien.
Une grosse vache niveau caractère.
C'est clair.
Et tu sais, c'est le temps de passer voir tes mails, répondre aux 150 mails que tu as, etc. Ben, t'as pas le temps de manger, et donc tu perds du poids.
Bon, bah après Forever Evil, elle va grossir, hein, parce que là, t'imagines, là, il y a de quoi faire une dépression.
Forever Big.
Bref, ta note, Bruno, pour ce...
Bah, un check-it plus.
Pour moi, ce sera, ouais, juste un check-it. On continue avec un annual, un des premiers annuals que l'on va traiter, puisque cinquième semaine du mois, ce sont des annuals chez DC. C'est Nightwing, premier annual de Nightwing, Valentin.
Oui, donc écrit par Cal Higgins et dessiné par Jason Matters avec Daniel Sempere et Vincente Sifuentes. Donc on a tie-in à le fait que Batgirl soit recherchée dans sa série pour le meurtre de son frère.
L'arc Batgirl Wanted.
Tout à fait. Et donc on a Nightwing et Batgirl justement qui se retrouvent et qui vont enquêter sur une affaire qui va leur rappeler un peu leur romance à tous les deux et dont le vilain est Firefly.
Et donc, moi, c'est ce qui m'a déçu. C'est pour ça que j'ai pas été le lire. D'ailleurs, quand j'ai vu la cover, j'espérais peut-être des retombées par rapport à Forever Evil et ce qui s'est passé à la fin du numéro 1.
Oui.
Et en fait, savoir que c'était Taïna ça et qu'il n'était pas du tout fait mention de Forever Evil, j'ai pas eu envie d'aller le voir, quoi.
Moi, j'étais agréablement surpris par ce one shot. Ça se laisse lire. Les dessins sont très bons. C'est vrai que le côté que ça soit pas lié à Forever Evil, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais c'est une bonne histoire, ça revient sur la relation entre les deux pour les New 52. Donc non, c'est une bonne histoire et ça vaut le coup de tester, donc un bail.
D'accord.
Et faut en profiter, je pense, vu que ce qui se passe avec Nightwing...
C'est un peu ça qui m'a décontenancé, quoi.
Mais on voit que ils ont chacun tourné la page.
On va passer au gros morceau de la semaine chez DC, c'est la sortie du deuxième annual de Green Lantern, qui est bien sûr la dernière partie du crossover Lights Out, scénarisé par Robert Venditti avec des dessins de Sean Chen, ancré par John Sibal et Walden Wong. Enfin, ce crossover se termine. Enfin, c'est pas forcément parce qu'il était trop long, mais c'est voilà, on atteint la fin et on avait envie de découvrir cette fin. Ce final, ça pète de partout. Un numéro double pour la fin du crossover, c'est toujours agréable d'ailleurs. Maintenant, il va y avoir des répercussions, ça c'est sûr. On nous avait promis que ça changerait les choses. Effectivement, ça va les changer. J'ai trouvé cependant la fin un peu facile, un peu Deus Ex Machina. On est encore un peu une fois dans les mêmes travers que les crossovers façon Geoff Jones, je trouve. Je reste assez cryptique parce que je veux vraiment pas spoil. Mais ça promet des choses intéressantes et en même temps je m'attendais à plus. Ils avaient tellement dit que ça changerait de choses que je m'attendais presque à plus. Enfin, en même temps, on n'a qu'un bout de ce qui va arriver par la suite. Mais
ouais, bah ouais. Enfin, moi j'ai trouvé bon. Enfin, il y a une bonne conclusion. Le changement va pour moi, ça va apporter du nouveau, mais c'est vrai que y a ça aurait gagné à ce qu'il y ait un peu plus de choses nouvelles, parce que je pense que ce qui se passe à la fin, ça a déjà été vu. Donc moi, j'ai bien aimé le crossover dans son ensemble. Les dessins sont bons, donc j'ai bien aussi aimé le fait de la petite plaisanterie sur le fait que bah Carol Ferris peut retrouver Kyle Rayner. Ça m'a fait rire.
Oui, bah t'as des poncifs, hein. T'as le coup de la patate, encore une
Oui.
fois, un des Green Lanterns qui en patate un autre. On va pas dire qui, quoi, comment, justement pour laisser la surprise, mais c'est vraiment le côté éculé du truc qui en devient drôle. À chaque gros événement, en général, de toute façon, on se retrouve avec ça.
Oui.
Mais ça reste bon, hein. Je donne l'impression peut-être d'être un petit peu déçu, pas du tout. Ça aurait presque mérité une partie de plus pour développer
Oui.
complètement le truc. Parce que là, ça donne un côté. Ils ont tous des anneaux presque déchargés, etc. Ils sont vraiment limite à l'article de la mort, mais ils s'en sortent quand même relativement facilement. J'ai pas l'impression qu'ils galèrent pour la fin. C'est ça le
Mais
truc. Ils ont galéré pour arriver jusque-là, et finalement, l'affrontement est presque facile.
oui, c'est vrai qu'il est un peu vite expédié, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça change de Battle of the Atom, parce que là on a vraiment un crossover qui tient sur un mois, et on a le début et la fin sur un mois, et ça fait plaisir de voir qu'une histoire peut tenir en 5 numéros, quoi. Un crossover peut tenir en 5 numéros.
Oh bien sûr, mais il faut juste éviter de délayer, quoi.
Tout à fait.
Alors, nouveau statut, vous imaginez bien qu'il va y avoir une solution au fait que la batterie centrale était détruite et que Oa a été détruit. Solution qui me paraît tout à fait logique, je
Oui.
voyais pas comment il pouvait en être autrement, qui reste très sympa, hein, en revanche, mais je vois pas comment il aurait pu en être autrement.
C'est
Mais en
vrai.
même temps, je suis content de cette solution-là.
Oui, parce que ça va apporter justement peut-être plus de des choses vivantes dans le titre, je pense.
Ouais. Et ça permettra peut-être aussi à Al Jordan de pouvoir déléguer un peu plus pour certaines choses.
Tout à fait.
Bon, en tout cas, on va voir les aftermaths dans les prochaines semaines. J'ai hâte de découvrir ce que vont donner les différentes franchises. Mais voilà, un bon crossover dans l'ensemble, c'est
Ouais.
agréable. Ça nous change les deux derniers crossovers de Geoff Jones. Même si on a quand même ce petit travers, on sera en terrain inconnu, hein, malgré tout, avec une fin relativement facile.
Oui.
Enfin, une façon de défaire le vilain relativement facile. Voilà. Donc, un gros bail. Ça reste
Exact.
mon coup de cœur de la semaine, malgré tout.
Bah moi aussi, c'est mon coup de cœur de la semaine.
Et on va terminer notre partie d'essai avec un dernier annual. C'est le Aquaman, pardon, annual numéro 1. C'est Marty qui nous le présente.
Oui, nous allons donc plonger dans les océans avec ce premier annual d'Aquaman, écrit par Jon Ostrander, cet auteur bien connu des lecteurs de Star Wars, qui avait déjà eu l'occasion d'écrire Aquaman il y a quelques mois, en faisant un petit fill-in durant Aquaman 20, où il
Qui était
recoupe.
chiant.
Oui, ben, tu me fais une bonne intro, merci, parce que ce que je vais dire, ça va être dans la même lignée. Je ne l'avais pas lu, je suis en retard sur Aquaman, mais je me suis arrêté, c'était la dernière fois que j'ai lu Aquaman, c'était le deuxième arc, celui sur les Others, dont il était question dans le 20 et dans cet annual. À chaque fois, que ce soit pour l'épisode 20 ou pour l'annual, on a à chaque fois des rumeurs, ah tiens, et si c'était un épisode pour lancer une série The Others? Bah, si c'est pour lancer une série The Others avec Ostrander, ce sera sans moi. Parce que...
Ça avait été un peu ce que j'avais dit de toute façon à l'époque quand j'avais fait la review du vin. C'est pas que c'était pas sympa, mais
C'est pas sympa.
voilà, autant les voir développés par Geoff Jones qui les a très bien campés dès le départ.
Oui, voilà, là vraiment, c'est plat, c'est pas intéressant. En plus, j'ai pas lu le 20, alors déjà, je suis content si tu me dis que c'était pas bien de pas l'avoir lu, j'ai pas perdu de temps, mais en plus, ça commence avec un statu quo qui découle de ce qui se passait dans le 20, avec un ou deux nouveaux personnages aussi qui vient du 20. Donc voilà, au début, j'ai pas tout compris et...
L'épisode était pas mauvais, c'était juste que bah c'était un feeling quoi, ça se sentait, tu pouvais complètement le zapper, tu perdais rien.
Bah là, ça pourrait être du feeling aussi. Enfin, niveau qualité, c'est vraiment pas top. On a là-bas The Operative et son petit-fils et une jeune fille, Sky, qui est apparue dans le vin, qui sont sur une île, qui se fait attaquer par des créatures marines humanoïdes, qu'Aquaman combat, et des singes volants, des petits singes volants façon le magicien d'Oz, qui viennent voler quelque chose. Alors c'est bon. Et puis alors, comme vous en doutez, hein, les Others se rassemblent, poursuite du méchant, puis il se passe ce qu'il se passe. Et franchement, c'est pas top, ça m'a pas passionné.
Est-ce qu'on a la présence d'Aquaman? Parce que c'était aussi un des problèmes du vin, c'est qu'Aquaman n'était quasiment pas présent dans l'épisode.
Oui, Aquaman est là, quand même, Aquaman est là. dirais, il bouffe pas la présence des autres. Il a un rôle égal à celui des autres, mais il est là en tant que, pas en tant qu'Aquaman, mais autant que membre des Others plutôt. Et d'accord. Bon, franchement, moi, ça m'a pas emballé. Hein, je trouvais ça.
Ah, j'avais l'impression que c'était ton coup de cœur de la semaine, dis donc. Vu comment tu nous le dépeins.
Ah, bah, pourtant. Enfin, bon, voilà. Moi, ça m'a vraiment pas emballé. J'y reviendrai pas. Hein. Ostrander sur Aquaman, la prochaine fois, ce sera sans moi. Niveau dessin, il y a Geraldo Borges, qu'on a vu le mois dernier, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur le 23.2 qui était sur Ocean Masters. Et un petit nouveau, Neto Diaz, qu'on a vu la semaine. Enfin, je dis petit nouveau parce que Borges a déjà un peu de la bouteille dans sa carrière, si je dis pas de bêtises. Neto Diaz, que lui, on avait vu sur Darkseid le mois dernier. Je crois pas que c'était un bon numéro non plus.
Oh, graphiquement, ça allait, mais.
Donc, oui, parce que. Ben, je parle du scénario, oui, c'est vrai que graphiquement, les deux, franchement, les deux dessinateurs, là, se débrouillent bien. Ils sont assistés d'une. Je sais pas combien d'encreurs, il doit y en avoir 7 ou 8 à vue de nez. Je vais pas faire la liste. ce serait trop long, de toute façon, j'en connais aucun dans le tas. Donc voilà, enfin en gros, je suis pas emballé. En plus, l'équipe, j'ai pas trouvé top. J'ai pas eu, je les ai pas trouvés aussi classe que Sue Jones.
Ça avait été ce que je me suis dit aussi à la lecture du 20. Un gros manque de charisme sur les personnages comparé à écrit à façon Jeff Jones, quoi.
Voilà, donc ouais. C'est du gâchis de potentiel, quoi, parce que c'est un peu avarié, alors du coup.
Ouais. Et en plus, on va dire que leur costume les aide pas. Hein. Je pense à Prisoner
of War.
Elle était très facile.
Donc, finalement.
Bon, bah, pour moi, ce sera. Au début, j'avais mis Check It moi, mais c'était ma première lecture de la semaine. Là, je vais mettre un pass, carrément. Parce... Vraiment, ce sera le seul de ce soir, je crois.
Ben ouais, mais en même temps, c'est un peu le problème que l'on a avec les annuals, c'est qu'on sait très bien qu'ils sont là pour combler la 7/5e semaine, et que malheureusement, tout n'est pas bon. Quand on a un annual qui finit un event, effectivement, c'est un incontournable, mais les autres, on sait très bien que les annuals, on peut les zapper. C'est très rare qu'il y ait un annual qui soit indispensable à la lecture. On a le cas du Teen Titans Annual, pardon, numéro 2 qui est sorti cette semaine, qui va expliquer pas mal de changements pour les mois à venir. On en a déjà parlé dans le Weekly News, donc je vais pas répéter ici pour éviter les gros spoils.
Voilà. Pareil pour l'Action Comics.
Pareil pour Action Comics qui lance le crossover, ouais, apparemment.
Effectivement. Mais en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, le Aquaman Annual, par exemple, c'est vrai qu'il est à 5€ en plus. Donc,
Oui, voilà.
Ouais, c'est de des épisodes doubles. Hein.
Ça fait un peu mal au fondement.
Voilà, c'est vrai qu'il y a tout plus de pages, mais que je lise 20 pages ou 40 pages de merde, bon...
Ça reste de la merde.
Bon, la merde, je vais un peu loin. C'est pas non plus un étron fini, mais c'est carrément pas terrible.
À noter que chez DC, cette semaine, on avait aussi, enfin en tout cas dans la branche Vertigo, la sortie du premier numéro de Sandman Overture. Je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, hein. C'est très long à lire. Par contre, qu'est-ce que c'est beau.
Bah moi non plus, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le temps de tout finir. Et oui, c'est magnifique, quoi.
Pareil, que feuilleté et oh my god.
Très beau numéro avec une double splash page qui s'ouvre en 4, assez sympathique, bon, qui explique pareil le prix quand même assez élevé du numéro, je trouve, qui est quand même à 5€. Mais bon, c'est vrai
mais
que c'est
un extra size issue aussi, hein, il y a quand même plus de pages. Mais
graphiquement, c'est vraiment très solide. C'est vrai qu'on en a pas parlé, ça aurait pu être un peu le gros focus de la semaine, mais,
mais
on y reviendra peut-être la prochaine fois.
Il fallait avoir le temps de le lire et de le digérer.
Exactement,
et là, malheureusement, c'était un peu court pour aujourd'hui.
Et puis, de toute façon, vu c'est Sandman, c'est Gaiman, c'est J.H. William 3, si je dis pas, The Third.
C'est un bail, quoi.
Franchement, c'est un bail plus.
C'est un bail.
Enfin, on l'a pas lu, voilà. Mais allez, c'est un bail.
Bah
ouais, pas en entier en tout cas. Donc je me prononcerai pas vu que j'ai pas lu l'histoire en entier. Je ne veux pas parler du tout de l'histoire, tout simplement. Parce que avec Gaiman, tout peut changer jusqu'à la dernière page, contrairement à certains scénaristes.
Sauf quand il est consultant sur une série là, par contre.
Allez, on va passer au TPB de la semaine. Petite dose de TPB cette semaine, 5e semaine du mois. On a mis ce qui restait à sortir, voilà, tout simplement. On commence avec Dark Horse qui nous sort le EC Archive Tales from the Crypt numéro 4 en hardcover. Ça vaut $50 avec bien sûr la suite des réimpressions des Tales from the Crypt qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Ce sont les épisodes 35 à 40 que l'on retrouve dans ce numéro en totale couleur.
Du coup, c'est une bonne sortie pour Halloween.
Exactement, ça tombe très bien le très bon jour, puisque c'est sorti le 30, mais voilà, une très bonne sortie pour Halloween. Continuons chez DC avec, chez Dark Horse, avec la sortie de Last of Us American Dreams pour les fans du jeu qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. La mini-série Last of Us publiée chez Dark Horse, reprintée dans ce TP pour $17.
Ouais, c'est une préquelle en fait, qui suit le personnage de la petite fille.
Chez DC maintenant, nous avons la sortie d'un gros omnibus ce mois-ci, alors et cette semaine surtout. Tout n'est pas petit hein, chez les TPB cette semaine. On a cet énorme pavé qui s'appelle DC Comics 1 Million Omnibus Hardcover.
Et qui vaut 1 million de dollars.
Pourrais-y l'acheter.
Beaucoup.
Et est-ce qu'il fait beaucoup, un million de pages?
Non, il fait pas un million de pages, mais ce serait intournable sinon.
Il fait 1080 pages.
Ouais, énorme ah ouais, quand omnibus. Même. Cet event qui date de 1999, qui avait été scénarisé, enfin orchestré en tout cas par Grant Morrison, au prix de $100, cet omnibus qui va reprendre donc la mini-série DC 1 million 1 à 4, plus tous les numéros 1 million qu'il y avait eu dans toutes les séries régulières de l'époque, un peu façon de ce que l'on a maintenant chez DC, chaque mois de septembre, des numéros qui ne sont pas comme le numéro 0 ou le numéro 23 point quelque chose, des numéros qui font un break le temps d'un mois et qui fait largement écho à ceux dont on a parlé comme rumeur lundi dernier dans le Weekly News pour le futur de DC pour le mois de septembre prochain.
Auto promo.
C'est très pour moi, enfin 1 million me fait tout à fait penser à ce qui serait la rumeur de ce qui pourrait arriver.
Et si Urban pouvait nous sortir ça en VF, ce serait pas mal.
Ouais. Et à moindre coût, ça serait cool aussi.
Je ne l'ai pas lu, moi, mais au niveau qualité, ça vaut le coup quand même.
Il y a du bon, il y a du moins bon, quoi. C'était justement, on imaginait pourquoi 1 million, c'est voilà, si la série arrivait au numéro 1 million, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va suivre les personnages qui sont les descendants de ces super-héros au 853e siècle.
Et non pas à long, 1 million, comme on pourrait le croire.
Ouais, voilà. Ça fait un peu comme la Justice League 3000, quoi.
C'est un peu ça, voilà, ouais. Mais donc là, avec des versions vraiment très, très, très futuristes. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, puisque ce sont les séries, les équipes régulières des séries de l'époque qui avaient fait chaque numéro 1 million. À noter aussi que dans ce omnibus sont publiés les Superman et Batman 79 et 80, qui datent de l'ancien univers pas longtemps avant le relaunch, qui revenaient sur cet univers 1 million.
En tout cas,
comme le faisait la série Superman Batman vers la fin.
Le pitch a l'air vachement intéressant. C'est dommage que ça soit à 100 dollars, sinon je pense que
100 dollars, 1080 pages, hein. C'est pas si cher que ça quand tu comptes. Hein.
Non, c'est sûr, mais bon, je pense que.
C'est un budget.
Ouais, voilà, c'est un budget à avoir. Et si je l'avais ce budget, je pense que je l'aurais pris.
Ben, comme tout omnibus hein, de toute façon, clairement c'est un gros pavé, mais enfin c'est un gros prix, mais c'est un gros pavé, vous en avez pour des heures et des heures de lecture là, clairement.
Okay.
Avec sûrement des séries que personne ne connaît qui sortaient à l'époque, des séries qui sont arrêtées ou qui ont été oubliées comme Chronos, comme Chase, enfin voilà, des trucs qu'on avait lancés fin des années 90 qui ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées.
Il n'y a pas le Hitman de Ennis, je crois d'ailleurs, dedans.
Si, bien sûr, il y a le Hitman qui avait son numéro 1 million. Enfin, il y a tellement de séries qui ont son numéro 1 million, je ne vais pas les citer maintenant, sinon on va faire une demi-heure de plus.
Je crois que même Hitman, c'est même une parodie, je crois, du concept. Enfin, Ennis, on connaît son amour pour les super-héros avec des collants. On peut se douter qu'il nous a pondu un truc bien gratiné.
Continuons avec quelque chose du passé. Deadshot Beginnings TPB sort cette semaine, scénarisé par ce John Ostrander dont on parlait il y a quelques minutes, avec des dessins de Luke McDonnell. Ça reprend la mini-série Deadshot 1 à 4 ainsi que le Batman 369 et le Detective Comics 474 au prix de $15. Ils le sortent à point nommé étant donné que Arkham Origins est sorti cette semaine et que Deadshot y joue un rôle dans le jeu vidéo.
Oui, tout à fait.
Tout simplement. Si vous voulez redécouvrir l'origine du personnage de Deadshot bien avant les New 52. Chez Dynamite maintenant, on a noté la sortie du Vampirella Master Series avec notamment en passage comme scénariste Mike Carey sur le personnage de Vampirella ainsi que Joshua L. Fialkoff.
Qui a fait aussi du vampire sur l'univers DC avec iVampire.
Exactement, voilà. C'est au prix de $20. Et puis ça tombe très bien pour Halloween du Vampirella. Continuons avec des monstres. Steve Ditko Archives Hardcover Volume 4 Impossible Tales. C'est voici un peu plus dans un style science-fiction horreur au prix de $40 hein, chez Fantagraphics comme d'habitude. C'est graphic novel qui reprennent les meilleures histoires de Steve Ditko sur ce qu'il faisait en indépendant. Toujours chez Fantagraphics, nous avons la sortie de Secret History Marvel Comics Hardcover Kirby Empire. Voilà, c'est le nom complet, je vous le donne. comme ça, vous pourrez le retrouver à vos comic shops, qui va revenir sur l'histoire secrète de l'origine de Marvel Comics, et notamment dès les années 30, hein, à l'époque où c'était encore Timely. Ça vaut $35, un bouquin qui peut être très intéressant, écrit par Blake Bell, Michael J. Vassallo, et avec bien sûr pas mal d'illustrations de Jack Kirby.
Et si c'est Kirby Empire, il y a en sous-titre, en tout petit, « Fuck you, Stan Lee ».
Stanley qui n'était que stagiaire, hein, rappelons-le, à l'époque de Timely. puis qui a pris du galon par la suite. Enfin, chez Fantagraphics, ressort Yusagi Yojimbo, le TPB numéro 1. Et oui, ça devient très dur à trouver, par Stan Sakai, bien évidemment, si vous voulez redécouvrir l'origine de ce personnage très indé, qui continue à avoir une vie aujourd'hui, qui continue de sortir, et qui est très difficile à appréhender, en tout cas, dès les premiers numéros. Aujourd'hui, les premiers numéros sont très durs à trouver. C'est au prix de 17 dollars. Très bonne initiative, je trouve, de Fantagraphics. Alors, à noter que, il a deux dates de sortie, le 30 et le 6 novembre. Le 30 octobre et le 6 novembre, donc peut-être certains comic shops ne l'ont pas encore reçu. Passons maintenant chez Image avec la sortie du TPB de Mara qui prend les 6 épisodes de la mini. Quelque chose que tu avais beaucoup aimé, Bruno.
Ouais, en fait, j'avais bien aimé les deux premiers numéros. J'ai pas terminé encore la série. C'est le concept était intéressant. Je vais pouvoir la terminer, mais c'est un concept intéressant avec une star du sport, du volleyball, qui avait également des pouvoirs de super-héroïne et qui était hyper médiatisée. C'était assez particulier, aussi bien graphiquement qu'au niveau du traitement de l'histoire.
Brian Wood était au scénario, Ming Doyle au dessin, une colorisation de Jordi Belair, bien sûr. 13 dollars, hein, pour ce TPB, c'est vraiment pas cher pour les 6 épisodes de la mini, je trouve.
Ça vaut le coup.
Toujours chez DC, ressort cette fois-ci en version Deluxe et Hardcover Revival, avec les 11 premiers épisodes de la série, ainsi que le Free Comic Book Day qui lui était consacré, une série de Tim Seeley et Mike Norton. Ça vaut 35 dollars, c'est une édition Deluxe et un Hardcover. Très bonne série d'ailleurs, Revival. Je sais pas si l'un de vous l'a lu.
Si, c'est vraiment très sympa. Voilà. Ça change de Walking Dead.
C'est chez Image, pas chez DC.
Et Delcourt.
J'ai dit chez DC ?
Oui, il me semble.
Ah bah autant pour moi, oui, c'est chez Image, effectivement. Et Delcourt a sorti le premier tome. Je le mentionne là principalement parce que c'est une édition de luxe.
Ouais, tout à fait.
Enfin, on va terminer par Marvel. Marvel qui nous sort Inhumans TPB by Right of Birth. Bien sûr, hein, on sort des Inhumains à l'approche d'Inhumanity. 25 dollars, qui va reprendre le Marvel Graphic Novel The Inhumans ainsi que Inhumans The Old Told Saga, avec notamment Anne Nocenti au scénario, Brett Blevins au dessin. C'est du vieux si vous voulez découvrir ce graphic novel des Inhumains. Pareil, aujourd'hui assez difficile à se procurer. Et enfin, c'est la saison. On est en plein Infinity. Et à la sortie de Thor, qu'est-ce qu'on vous propose? Thor versus Thanos. Tout simple. Ça reprend la série de Dan Jurgens fin des années 90, avec les épisodes 18 à 25 ainsi que l'annual 2000 où Thor justement affrontait Thanos. C'est au prix de 25 dollars, pareil, du matériel qui est pas toujours évident de trouver aujourd'hui.
On risque de l'avoir en VF, ça, dans la collection Best of, je pense, vu qu'ils reprennent les épisodes de Thor de Dan Jurgens.
Peut-être, ouais. On retrouvera aussi du John Romita au dessin. C'était d'ailleurs un très très bon tandem, hein, que ce Dan Jurgens et John Romita, je trouve, sur Thor.
Ouais.
Pour ceux qui s'en rappellent. Oui, il faut être vieux et les avoir lus depuis.
Je suis trop jeune.
Ah, moi, c'était mes débuts, ça.
Non, c'était très sympathique, hein, ce qu'il avait fait à l'époque, Dan Jurgens, je trouve, sur cette série. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous aurez de quoi vous procurer pour accompagner tous les bonbons que vous aurez glanés en allant frapper à la porte des gens.
Et faites gaffe parce que ça dépend de quel type de bonbons ils vous offrent.
Ah, les gamins qui sont venus me voir tout à l'heure, ils ont pas été déçus, hein, je vous dis.
On veut rien savoir.
Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour vos prochaines sorties, début du mois de novembre. Pareil, on va lancer de nouveaux crossovers, on va lancer des nouvelles séries. Ça va être un mois de novembre relativement solide, peut-être un peu plus calme que ce mois d'octobre qui était quand même très difficile à suivre financièrement.
Tout à fait.
Oui.
En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. Vous nous retrouvez bien sûr d'ici là sur Facebook, sur Twitter, et retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ainsi que sur iTunes. Et n'oubliez pas de nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, les mails que nous lirons dans l'émission Le Weekly News. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.
Bye les gens.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
Et toutes.
Et toutes. And you're heading up to Brisbane.